Bonjour à tous, vous écoutez le Comic City numéro 61, le podcast des sorties VF.
À ne pas confondre le podcast avec... des petits matins qui chantent.
À ne pas confondre avec le Comics Weekly, le podcast des sorties VO.
Le Comics Weekly, le podcast des petits soirs qui...
Qui pleurent.
Qui pleurent.
Je sais pas.
Du mal à la fin.
Oui, je précise, parce que c'est vrai que je le précise pas assez souvent, et que comme on a des nouveaux auditeurs... tout le temps, bah, c'est bien aussi pour eux de pouvoir comprendre un petit peu la différence entre Comic City et Comics Weekly. Donc voilà, je suis avec Mister Onivani.
C'est moi.
Enfin, monsieur, puisque nous sommes dans la VF.
Oui, voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas rappelé, celle-là.
Oui, c'est vrai. Ouais.
On va dire que c'est pour les nouveaux auditeurs qui vraiment, voilà, sont vraiment super nouveaux et qui ne connaissent pas le principe.
Non, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de nouveaux auditeurs. On s'en rend compte avec les chiffres tous les mois et ça nous fait extrêmement plaisir. Et donc, bah, un petit cadeau de bienvenue. Voilà.
Pour commencer. Alors ça c'est un super cadeau, franchement.
Une petite explication sur comment ça marche.
Ouh ouais, oh, notice explicative et tout.
Ça rigole plus. Ok, donc bah ce mois-ci, nous allons parler pas mal de librairies, un petit peu du kiosque, mais c'est vrai qu'on a axé pas mal les lectures de ce mois-ci sur la librairie, ou en tout cas les choses plutôt en marque complet, plus que magazine kiosque traditionnel du type Marvel Heroes, Marvel Stars et compagnie. Mais on en a lu quand même. Enfin plutôt tu en as lu.
Ouais, j'en ai lu quand même pas mal. J'ai rushé, disons, mes lectures. C'était assez chaud ce mois-ci.
Ouais, ça a été un peu short. Oui. C'est vrai qu'on a eu pas mal de taf ce mois-ci et du coup, voilà, le temps de lecture s'en ressent. On va pas déroger à la règle, hein. Comme d'habitude, on va commencer par les petites news et tu as des news assez importantes à nous annoncer, Benny.
Oui. Bah oui, Buffy, parce que on a enfin un planning des premières sorties d'Urban Comics. Alors, souvenez-vous.
Ah.
Oui, Urban Comics, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qui peut-être n'ont pas tout suivi, mais Urban Comics, c'est la gamme de comics lancée par Dargo, donc à partir de 2012, qui arrive en janvier, et qui a la lourde tâche de sortir du DC, notamment, et du Vertigo.
Ils ont récupéré les droits, hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Panini a perdu les droits d'essai qui ont été récupérés par Dargo.
Pour ceux qui auraient passé les 6 derniers mois sur la Lune.
Bah, même les 3 derniers mois, en fait, puisque l'annonce a été faite début juillet. Fin juin, début juillet.
Oh, on est quand même bientôt en novembre.
Oui, c'est vrai.
Comme le temps passe. Bon, alors...
Les phrases banales.
Oui, les phrases banales, mais qui font du bien. Alors, bah alors justement, très bonne transition, Steve, en plus. Tu pouvais pas faire mieux, puisque, dans la banalité, alors, la seule sortie annoncée, en tout cas, tout du moins, pour le moment, en janvier chez Urban Comics, c'est une librairie.
Alors, je vais tout de suite préciser que je n'ai pas du tout vu le planning, donc je vais le découvrir au moment où Benny l'annonce. Ouais. Vous allez avoir mes réactions en direct. Il m'a déjà prévenu que je risquais de criser un peu, mais
oui,
voilà.
Si peu.
J'ai hâte. Donc déjà, il n'y a qu'une seule sortie prévue en janvier.
Oui, déjà.
Ça commence très mal, donc.
C'est assez extraordinaire, quand même. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois, donc on le dit, qui font des réunions pour préparer leur planning, etc. Et de tout ça ressort uniquement un titre au mois de janvier. C'est un titre librairie, et devine ce que c'est. C'est un truc qu'on a déjà eu 14 000 fois.
Sans déconner, c'est de la réimpre.
Exactement.
Oh là, putain. Alors, un truc qu'on a déjà eu 14 000 fois. Ah putain, je sais pas, il y en a beaucoup. C'est du DC ou c'est du Vertigo?
C'est du DC. Ouais, c'est du DC.
Je dirais que c'est du Batman.
Non, justement, moi je disais en un peu en déconnant et puis en ayant un peu peur qu'ils allaient nous refaire une énième réédition de Dark Knight Returns ou Batman Year One. Heureusement, c'est pas ça, mais quasiment.
Secret Origin, le Green Lantern Secret Origin.
Non.
Bah je ne sais pas.
C'est Watchmen.
Ah oui, d'accord. Alors j'aurais même pas envisagé que ça. En fait, c'est ressorti dans une super édition il y a quoi, un an ou deux?
Oui, voilà, c'est ça. Chez Panini, ils ont sorti 3 éditions différentes.
Mais oui, qui était excellent d'ailleurs. Une très très bonne idée. Une édition toute simple, une édition avec un peu plus de bonus et une édition Ultimate. C'était génial.
Voilà. Et alors là, c'est une édition contenant les 50 pages bonus de l'édition Absolute. Mm-hmm. Sauf que, elle fait donc 464 pages, mais elle coûte 35€ quand même.
Mais si mes souvenirs sont bons, elle est moins chère que celle de Panini qui devait être aux alentours de 50.
Alors, l'édition Absolute, certes, parce que c'était une grosse édition, mais alors là, je pense pas que ce soit le format de l'édition Absolute. C'est-à-dire qu'il y a les 50 pages que contiennent normalement l'édition Absolute, mais c'est un format, on va dire, classique, je pense.
En souple, donc. Enfin, en cover souple, pas en hardcover. Donc.
Si, quand même, pour 35 euros, je crois que c'est du hardcover, parce qu'en souple, c'était 15 euros chez Panini, hein, l'édition toute bête en souple.
Ouais, mais il n'y avait pas toutes ces pages bonus, je
Non, il n'y
crois
avait pas
pas.
toutes ces pages bonus, mais l'édition dure était à 30. Et je sais pas s'il y a les pages bonus, par contre, dans l'édition dure. Ce serait intéressant de savoir.
Je ne sais plus, je ne sais plus du tout.
Parce que là, 35 euros, pour une réédition qu'on a déjà eu 14, enfin, par définition, qu'on a eu déjà un certain nombre de fois, puis en plus, c'est la seule sortie pour le moment de janvier, ça commence fort, quoi.
Je dirais que ça commence, oui, très très mal, quoi. Ça
Ouais.
commence très très mal. Et le problème, c'est qu'à ton rire, je sens que j'en suis pour d'autres surprises. Donc je vais m'accrocher bien à mon siège. Ça me fait peur.
Ouais, alors donc c'est la collection DC Deluxe, hein, je dis ça comme ça, parce que on a le nom des différentes collections du coup. Alors, à partir de février, nous avons en librairie un truc qui s'appelle DC Comics Anthologie. Donc c'est
Ouais.
un recueil avec on nous annonce du Jerry Siegel, du Alan Moore et plein d'autres, et puis du John Byrne, du Neil Adams, du Jim Lee et d'autres au dessin. Alors en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve divers récits de 1939 à 2011, 15 récits, nous disent. Donc à travers toute l'histoire d'ici et dont le premier numéro de Justice League par Geoff Johns et Jim Lee en français.
Mais c'est totalement incohérent.
Oui, totalement. Et ça coûte quand même 22,50 € ce truc-là, de 288 pages.
C'est totalement incohérent de nous sortir déjà le début du reboot DC. Enfin, ouais, bon, ok.
Alors là. Donc nous avons un, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là, Superman Super Fiction, tome 1. Dans la collection DC Classique, c'est Joe Ekazé qui a scénarisé ça, et au dessin on avait Derek au coin. Il est puni, il va au coin. 15 euros, 144 pages.
Ouais,
Et
6 épisodes.
voilà, il nous annonce le tome 2 en avril 2012. Voilà, donc ils nous disent que c'est un petit peu dans la veine des séries d'Alan Moore et Grant Morrison. Bon, je vais le résumer, je sais pas du tout ce que c'est que
Mais moi
cette
non plus. Ça me dit rien du tout là, comme ça. J'en ai aucune idée. Mais enfin, pour le moment, ce qui m'inquiète, c'est que tu nous cites que de la librairie, tu nous cites pas de kiosque.
Alors attends, je vais y venir. Toujours en librairie, Batman Sombre Reflet, tome 1. Donc pareil, on aura un deuxième tome en avril également. 15 euros, 144 pages. Scott Snyder et Jock, ainsi que Francesco Francavilla. Alors là, je te donne les
Donc oui,
crédits.
ouais, ça c'est de Detective Comics, c'est les derniers Detective
Exactement,
Comics.
c'est du Detective Comics, et ce n'est même pas précisé dans leur planning.
Ça c'est très bon en tout cas. Ça
C'est
c'est
très
du
bon.
très bon.
Bien sûr, c'est très bon. Mais alors, ça fait peur d'avoir du Detective Comics déjà en librairie, parce que tu te dis, mais merde. 15 euros 144 pages, on aurait pu avoir ça en kiosque chez Panini.
Bon, ça fait quoi? Ça fait 2,50 € l'épisode.
Ouais.
Finalement, c'est pas si cher que ça.
C'est pas si cher, certes, mais
Mais en kiosque, ce serait moins cher, oui.
je préfère avoir une édition pourrie, en un sens, et pouvoir lire pour moins cher. Je sais bien que c'est un peu bête comme raisonnement, mais bon, enfin voilà quoi. On n'est pas méga riche non plus, et c'est ce que j'avais peur, tu vois, qu'ils nous sortent des trucs librairies comme ça, et bah c'est ce qui arrive. Donc ça m'inquiète. Et puis en plus, il précise pas que c'est tiré de Detective Comics, donc c'est pas super pratique. On aura encore dans la même gamme Wonder Woman l'Odyssée par James Straczynski et Phil Lester avec Don Kramer au dessin. Donc là, c'est les
Voilà.
épisodes.
Fuyez, fuyez.
Oui, les fameux épisodes que Steve n'a pas aimé. Moi, je trouve que, écoute, au vu du relaunch par comment il s'appelle?
Brian Azzarello.
Voilà, c'était pas si mal non plus, hein, ces épisodes. 17 euros, 176 pages, et il y aura le tome 2 qui sortira aussi en avril.
Donc là, nous avons 7 épisodes.
Voilà.
Bon, les prix sont à peu près corrects, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que... Est-ce que tu nous as tout cité pour la librairie ou pas?
Non, non, non. Il y en a encore quelques-uns. On va passer chez Vertigo, de toute façon.
D'accord, parce que donc ce qui m'embête un petit peu, donc
Trois
je vais
Vertigo, d'ailleurs.
pouvoir appuyer mon point, c'est qu'on nous ressort la traditionnelle trinité DC dans l'inconscient collectif, alors qu'en réalité cette trinité DC n'existe plus. On est plus du tout dans la trinité DC d'il y a 10 ans, la trinité DC de papa et maman. C'est plus Superman, Batman et Wonder Woman qui dirigent l'univers DC, loin s'en faut, c'est plutôt Batman, Green Lantern et
Flash,
Flash, ouais.
peut-être bientôt Aquaman, parce qu'il va peut-être revenir en force,
Ouais, mais
finalement.
bah, en tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est Batman, Green Lantern et Flash, on va
Oui,
dire.
c'est ça.
Superman et Wonder Woman ne font plus du tout partie de cette trinité. Et Urban Comics commence en nous mettant en avant, en tout cas, ces trois grands héros, qui, je comprends leur statut iconique, hein, il n'y a pas de problème, mais ça nous prouve tout de suite qu'ils ne sont pas au fait de la diversité DC actuelle.
Ouais,
Et ça,
alors.
c'est assez, je
Ils
pense.
essayent peut-être de toucher justement un large public qui n'aurait pas encore touché aux comics.
Oui,
Donc
mais
bon.
je pense qu'avant d'essayer de conquérir un nouveau public, il serait bien de conquérir le public actuel.
De conserver, oui, tout à fait, les lecteurs actuels de Panini,
Ah, pour moi,
si on a.
c'est le conquérir, puisque c'est une nouvelle maison d'édition. On ne sait pas du tout comment va être fait le travail. Alors, je ne veux pas du tout critiquer le truc avant d'avoir vu, mais c'est vrai que on est habitué à un certain niveau de travail de Panini. En bien ou en mal, c'est pas le problème. Mais déjà, qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de faire au moins aussi bien, et ensuite qu'ils essayent de partir à la chasse de nouveaux lecteurs. Mais essayer de commencer par conquérir des nouveaux lecteurs, pour moi, c'est une très mauvaise stratégie. Parce que si on conserve, enfin, les nouveaux lecteurs, on sait très bien qu'il n'y en a pas beaucoup, de gens qui vont être influencés et de se dire, ah bah tiens, je vais peut-être tenter, je vais peut-être m'y mettre, etc. Ça devient assez rare. Le but étant de conserver le public actuel plutôt que qu'il arrête définitivement. Voilà, je pense que pour un nouveau lecteur de conquis, c'est plutôt deux anciens qui se barrent actuellement. Donc, je sais pas si le ratio est bon.
Et alors on passe à la collection Vertigo Classique, toujours de la librairie. Alors avec le premier, Les Dossiers d'Hellblazer, La Cité Infernale. C'est un récit complet par Cy Spencer et Sean Murphy.
D'accord.
14 euros, 128 pages. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que cet arc d'Hellblazer. Enfin,
Ouais,
c'est
mais
un.
alors,
Ça
vu
doit
le
être un.
nom de la collection Vertigo Classique, il faut s'attendre à ce que ce soit du vieux.
Ouais. Puis alors là, ça doit être du graphic novel, sans doute. Je ne sais pas.
Peut-être une mini, je ne sais pas, je ne connais pas assez Hellblazer pour me prononcer.
Soldat inconnu, tome 1 sur 4, possédé, c'est le titre. Hein.
Là, ils ont décidé de sortir la série Unknown Soldier, donc.
Ben ouais. De Joshua Dysart, si je prononce bien, Alberto Ponticelli au dessin, 15 euros, 144 pages, voilà, 1 sur 4.
J'en ai entendu beaucoup de bien, jamais testé.
Pareil, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Et on termine avec Top 10, tome 1, alors Alan Moore au scénario,
Oui,
Gene A au dessin.
le fameux top 10 de chez. Mais c'était pas du
D'ailleurs, je
Vertigo,
dis top 10, top 10.
ça devait être du Wildstorm ou du ABC, mais qui était une sous-filiale de Wildstorm.
Oui, là, de toute façon, ça sort dans la série, dans la collection, pardon, Vertigo
Ouais,
classique.
alors déjà c'est pas du Vertigo, donc ça me fait un peu rigoler. Et donc déjà c'est mal parti. Et en plus c'est quand même assez vieux, hein. Top 10. Enfin, c'est pas pour autant que c'est mauvais, mais c'est quand même assez vieux.
15 euros, 160 pages, donc comme tu disais, Vertigo classique, c'est de l'ancien. Et puis là, en l'occurrence, c'est peut-être même pas du Vertigo
Ah bah
d'ailleurs.
c'est sûr, c'est pas du Vertigo, hein. Si ma mémoire est bonne, c'est du ABC.
Très bien. En kiosque, on arrive enfin. Il y a deux titres, simplement deux titres, Steve, en kiosque d'annoncer.
Mais en même temps, ça change pas de ce que nous proposait Panini. Généralement, on se retrouve avec deux kiosques par mois. Très rares étaient les mois où on en avait trois.
Ouais. Alors, est-ce que les choix sont, et le prix surtout, sont aussi bons que Panini?
Vas-y, fais-moi mal.
Premier kiosque Flashpoint, donc
D'accord.
numéro 1 sur 3. Jeff Jones, Andy Kubert, Francis Manapul, jusque-là pas trop de surprise. 144 pages.
Alors,
Alors, le prix.
oui, alors, 144 pages pour du kiosque, c'est très bien. Maintenant, 1 sur 3, donc ça veut dire qu'on va avoir des mini-séries qui vont être intercalées, ça c'est certain. Puisque 144 pages, normalement, l'histoire est complète, hein.
Alors ils nous mettent. En fait, que ça contient les flashs 8 à 12 qui n'auront pas encore été publiés par Panini.
D'accord, et qui sont, on va dire, pseudo-prologue à Flashpoint.
Et uniquement, du coup, le Flashpoint numéro 1 pour ce premier numéro.
Alors, quid du Flash numéro 7, qui va rester donc inédit, puisque nous avons le 1 à 6 dans le DC Heroes de ce mois-ci, dont on va parler tout à l'heure. Là, on va passer au 8 à 12, donc il manquera l'épisode 7 de Flash, qui donc ne sera pas publié.
Certainement.
Ça me gêne.
Bah, ça me gêne beaucoup de monde, d'ailleurs, faudrait le virer du podcast. Rapidement.
Non, mais... Non, mais ça me gêne parce qu'à l'époque où on est, surtout sur une série où il n'y a que 12 épisodes, en rater un, ça fait chier, quoi.
Ah. Et le prix, Steve. Je vais faire mon pire
Allez,
Belmar.
allez, 6,90€.
Eh bah, ben, 6,60 €.
Putain.
Eh oui, t'étais pas loin. 6,60 € quand même pour 144 pages, donc ils font plus fort que Panini. Ça commence bien.
Ça commence bien. Bon, en même temps, il y a 144 pages, quoi. Mais c'est vrai que Panini a tendance à nous proposer du 144 pages en kiosque pour 5,60 €, quoi. Donc là, on a 1 € de plus dans la gueule. On va dire que c'est la faute à l'inflation, au fait de sauvetage de l'Europe et la TVA qui augmente.
Et
Voilà.
les problèmes de la Grèce, et puis Dominique Strauss-Kahn aussi, je pense qu'il est pour beaucoup. Très bien. Donc, on continue avec le dernier titre, kiosque. Batman Showcase. Alors, ils mettent numéro 1 sur 2. Pourquoi numéro 1 sur 2? C'est ça que je comprends pas.
Mais parce que, à mon avis, tous les titres vont être relaunchés au moment du grand
Ah, c'est pour ça. T'as peut-être raison. Alors, grand point
qui est très
historique
fort
pour
quand même,
ça.
c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on fait un reboot. Ça va être génial.
Oui. au bout de 2 mois même là avec avec Dargo. Grant Morrison donc au scénario, Chris Burnham au dessin avec Yannick Paquette et Scott Clark. Tu sais bien sûr que c'est
du Batman and Robin et du Batman Incorporated.
Non, c'est juste Batman Incorporated.
Ah, j'aurais dit que il y avait du Batman et Robin aussi, mais non.
Ça aurait pu, c'est vrai.
C'est vrai que Grant Morrison n'était plus sur la série en plus, suis-je bête.
Donc les épisodes 5 à 8, 96 pages, pour, attention, 4 épisodes, 5,60€, donc on est plus cher que Panini.
Ouais, voilà. Donc ça veut dire que Panini va nous publier au moins les 4 premiers de Batman Inc.
C'est prévu.
D'accord.
Si je dis pas de bêtises, il l'annonce là dans le dernier Batman Universe.
Ce serait mieux parce que sinon commencer la série numéro 5, ça risque de faire un peu gueuler, je pense.
Ouais. Voilà où on en est. Premières annonces, c'est pas génial.
Mais c'est un peu décevant. Alors il y a du bon, il y a du choix en tout cas. Puisqu'on pourra avoir du Batman, on pourra avoir du Flashpoint, on pourra avoir du Wonder Woman, du Superman, OK, il y a du choix. Mais c'est vrai que on espérait, je pense, plus de la part de Dargo en tout cas.
Ah bah totalement, parce que où est Green Lantern par exemple déjà là.
Mais oui quand même, qui est quand même la valeur sûre de chez DC, celle qui avec Batman vend à peu près 40%. Je sais pas, j'avance des chiffres un peu au hasard, mais c'est un peu ça quoi. Donc là oui, c'est quand même assez problématique.
Oui, bah alors mon avis est mitigé, hein. Comme tu t'en doutes, honnêtement, j'ai été très 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 déçu par ces premières annonces. J'espère qu'on aura plus de titres d'ici là de prévus, surtout pour janvier, puisque finalement pour janvier c'est juste une maigre réédition.
Bah ouais, enfin je veux bien croire que Watchmen est quand même un incontournable, mais de là à ne sortir que ça, sachant qu'il est sorti il y a pas longtemps, voilà, je suis pas certain. Je pense que si nouveaux lecteurs il devait y avoir, ça aurait été à l'époque du film, ils ont déjà acheté les rééditions Panini. Surtout à si peu cher, à 15€ le tome, quoi.
Mmh, ouais. Et moi ça me fait penser historiquement parlant au début de Panini en kiosque, puisque c'était aussi un mois de février, donc c'est assez marrant que ce soit le même mois, le mois où ils sortent.
C'est un mois de février, mais ils avaient quand même un planning éditorial beaucoup plus intéressant.
C'est ça la grosse différence, c'est-à-dire qu'effectivement j'étais arrivé en kiosque à l'époque, dans une maison de la presse, et je savais même pas d'ailleurs que Panini allait reprendre, puisque j'avais pas le net, enfin voilà, c'était un autre temps. Et voir d'un seul coup sur les rayons, mais cette avalanche de titres en français, qui faisait penser vraiment à des fascicules américains, mais c'était le rêve à l'époque.
C'est clair.
Ils avaient commencé très fort, il faut dire.
Ouais.
Et puis, la qualité éditoriale était là, ça a bien changé depuis. Enfin, je veux pas dire non plus que c'est devenu totalement nul, hein, attention. Mais je veux dire, il y a eu au début, ils faisaient pas mal de choses, et puis avec le temps, ça s'est un petit peu comment dire dégradé. Il y avait beaucoup plus de fiches explicatives sur des personnages dans les premières parutions, des chronologies. C'était intéressant. Il y avait du contenu, quoi.
Ben ouais, mais là, bon, on va leur laisser passer quelques mois, mais c'est vrai que ça fait peur. Mm. Pour info, je viens de regarder le Superman là de Joe Casey, c'est les Adventures of Superman numéro 610 et 612 à 616.
Ah oui, donc c'est vraiment de l'ancien, quoi.
Ouais, c'est de l'ancien. Ouais. Merci à Super Pouvoir, du coup. Parce que c'est chez eux que j'ai trouvé l'info.
Et de rien. Non.
Ah bon, bah on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il faut pas crier au loup tout de suite, mais c'est pas encourageant.
Non, mais on criera au loup en février.
En janvier. En janvier. Quand on verra qu'il y a qu'un seul titre dans les rayons.
Oui, bah ça on le sait de toute façon. S'il n'y a rien de prévu de plus, tant pis quoi.
Peut-être que d'autres choses vont sortir d'ici là, ce que j'espère. Parce que ce serait un très mauvais démarrage à mon avis. Bien, et ben on va passer aux sorties de ce mois-ci, hein, du mois d'octobre, celle qui nous intéresse le plus quand même. Et on va entamer avec le kiosque. Kiosque, donc, comme je disais hein, au début d'émission, je n'ai pas beaucoup lu. Donc c'est plutôt toi qui vas nous en parler, Benny.
Oui, merci Steve.
Mais je t'en prie, je te fais des cadeaux. Non, manque de temps, pas mal d'émissions avec les Comics Weekly qui ont pris beaucoup plus de temps. Comme vous avez pu vous rendre compte ces derniers temps, les émissions sont plus longues. Donc elles demandent plus de travail et donc moins de temps pour la lecture.
Alors par contre pour les crédits, je vais te dire franchement, j'ai pas tous les numéros sous la main, donc
c'est pas grave. C'est pas grave, on fera ça. Exceptionnellement.
Voilà. On va faire peut-être l'impasse sur certains noms, tant pis, hein. Bon voilà.
Dirons-nous la vérité et que nous faisons ce Comics Weekly, ce Comic City, pardon, un petit peu dans l'urgence et un petit peu à l'arrache. Puisque la fin du mois approchant à grands pas, nous sommes le 27, hein. Il était temps de s'y mettre. Et que voilà, puis bon, avec l'organisation du LCF, tout ça, c'est vrai qu'on a un peu pas beaucoup de temps.
On l'enregistre déjà, on est dans le gymnase là.
Oui, voilà, mais il n'y a personne.
Il n'y a personne. Ça devrait résonner un peu plus, mais on s'est mis dans une petite salle spéciale à côté qu'on connaît bien.
Mais on passe quand même par Skype, histoire de garder les trucs comme à la
Oui,
maison.
bien sûr. D'ailleurs, toi, tu es à l'autre bout du gymnase. Voilà, c'est très
Je
drôle, on
te
fait
fais
des signes.
coucou d'ailleurs, tu me vois là?
Oui. Oh, et oh! Je vais te dégager, mais...
C'est n'importe quoi.
C'est...
Je dois préciser aussi que comme un con, je faisais coucou devant mon écran, hein, histoire d'ajouter
Moi
le
aussi!
geste à la parole. Ah, toi aussi, bon, ça
Et
va,
moi
je...
aussi, donc c'est bien, on est tous les deux aussi cons l'un que l'autre!
Ça fait plaisir.
On est complémentaires!
Eh bien, je t'en prie, commence avec le kiosque, avec celui que tu veux.
C'est vraiment n'importe quoi! Spider-Man 141! Allez, c'est parti!
Alors
Deuxième!
effectivement, c'est n'importe quoi, oui. Tu commences
Oui!
vraiment par du n'importe quoi.
Bah oui, on reste dans le sujet. One Moment in Time, deuxième partie en français. Joe Quesada au scénario et dessin pour certaines pages. Et l'autre, c'était qui? Paul Azé? Non, pas Paul Azé, c'est toi. Tu vois, ça va être compliqué là.
Paolo Rivera, je crois.
Pablo Rivera, exactement. Bon point, bravo. Donc, bah écoute, que dire, hein, que je n'ai pas déjà dit avant. One Moment in Time, c'était assez douloureux en VO. Ça passe mieux bizarrement en VF avec cette deuxième lecture, même si les propos de Quesada sont toujours un peu bancal.
Banco.
Banco.
Bon, oh, j'en, non, banco. Oh, j'en sais rien.
Voilà, oh là là! Oh oh oh!
Ça commence bien. Mais c'est ce qu'on dit, hein. Ça fait mal la première fois.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Mais c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce One Moment in Time.
Omit ou le toucher rectal.
Très bien, Steve, merci. Je voulais pas aller jusque-là, mais tu vas au bout du bout, c'est bien. Bah ouais, en fait, on a enfin les explications de Brand New Day, quoi, en fait. Pourquoi on en est arrivé là? Bon, c'est déjà ça, après 2 ans de
Il a
questions.
fallu 2 ans pour essayer de trouver une explication quand même.
Et une explication assez bancale, comme on vient de le dire. Il y avait du backup, dont je me souviens absolument pas, donc ça devait pas être extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que ça va être assez difficile, cette review.
Nous passerons dessus donc. Ouais, bon, un mag à acheter vraiment pour ceux qui veulent la collection jusqu'au bout.
Oui, pour les complétistes, et puis pour les jolis dessins quand même.
Ouais, ou pour se rendre compte du désastre aussi.
Non, non, parce qu'il y a quand même de... Graphiquement, c'est plutôt pas mal.
Oui, mais bon, est-ce que la seule partie graphique suffit à l'achat?
C'est la grande question.
Voilà.
Des dessins contre le scénario. Enfin bon, bref. La réciprocité, toutes ces choses-là, hein.
Exactement.
Spider-Man hors série 35, passons à la suite. D'ailleurs, c'est la suite directe, puisque c'est les épisodes d'Amazing suivants. Donc il y en a 6, si je dis pas de bêtises.
Non, 5.
5? Bah allez, banco, on va dire
Oh,
5.
je ne sais plus.
Mark Waid est au scénario, et là, c'est notre ami très bizarre, au style si particulier. Paul Azaceta, bah, l'histoire est assez simple, en fait. Le bébé de Menace, donc ex-copine d'Harry Osborne, qui s'est fait ensemencer, on va le dire comme ça, par... Voilà, bah, vient au monde, et ce bébé donc contient normalement du sang de bouffon vert, c'est-à-dire que dans son ADN, il y a un petit peu de la formule du bouffon et donc de la superpuissance. Et du coup, eh bien, le docteur Octopus ainsi qu'une ribambelle de super-vilains essayent de mettre la main dessus. Et donc s'engage une course-poursuite dans toute la ville de New York entre Spider-Man qui essaye de sauver le bébé et Spider-Man avec un bébé dans les bras qui doit changer de couche. Et ben, c'est pas facile. Surtout qu'il est poursuivi par Sandman, Mysterio, etc.
Ça me rappelle un petit peu le premier arc sur le relaunch à l'époque de Daredevil par Joe Quesada, par
Oui,
Kevin Smith pardon, et dessiné par Joe Quesada justement, qui s'appelait The Guardian Devil, où justement Matt Murdock avait affaire à un bébé qui était soi-disant l'antéchrist et qui s'évertuait à protéger.
c'est vrai. Et d'ailleurs, là, il y a un petit côté antéchrist avec ce bébé. Il y a un certain passage où il lui pousse des cornes sur la tête.
Ça me rappelle un peu ça justement.
Ouais. Et
Ce qui est
bon.
assez marrant quand on sait que Mark Waid a travaillé sur Daredevil ensuite.
Ah oui, c'est vrai.
Bon,
Mais
je pense qu'il faut. C'est nous qui voyons le lien et que c'est sûrement totalement une coïncidence. Mais voilà, c'est assez marrant, je trouve.
Non, mais ça y fait penser, c'est pas faux. Donc bon, bah, l'histoire est bourrée d'action, c'est assez sympa, cela dit.
Bah, le dessin, quoi, qui peut perturber certains.
Ouais. Le dessin, qui est surtout assez catastrophique, enfin, c'est peut-être un peu fort au début parce que les visages humains font peur.
Il faut le temps pour s'habituer à son style, hein, c'est assez clair.
Mais sinon, d'un point de vue action, voilà, quand il fait du Spider-Man qui affronte des super-vilains, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien rendu, bien foutu. Donc, un achat intéressant quand même.
Ouais, c'est du bon. Disons que si vous êtes déçu par Omid, lisez ça, ça sera quand même mieux.
C'est quand même mieux, et puis en plus, pour une fois qu'un hors-série contient des épisodes de la série principale, bah faut pas le rater.
Ouais, c'est clair.
Voilà. On va passer à Marvel Icons, tiens.
Je te suis.
Si ça te
Je te
dit.
suis, vu que je ne les ai pas lus, hein, donc
Alors,
voilà.
c'est assez simple. En fait, ce mois-ci, nous avions deux épisodes de New Avengers. Alors, sans surprise, Brian Michael Bendis est au scénario. Et au dessin, on a pour le premier épisode Daniel Acuna.
Ah.
Mais alors, premier épisode essentiellement centré sur Luke Cage et Jessica Jones. Oh, quelle surprise! Un gars et une fille, all over again, voilà. Donc scène de ménage et compagnie, enfin bon, discussion de couple, thérapie de couple.
Ouais.
C'est vraiment pas ma came, comme tu le sais.
Ouais, bah ouais. Moi, je les lirai parce que, bon, jusqu'à présent, cette série me déplaît pas. Voilà.
Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du New Avengers pour moi, quoi. C'est ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'il y a tellement de Luke Cage et de Jessica Jones que c'est plus une série, tu vois, autour de ces deux personnages à force qu'un titre Avengers.
Mais je pense que voilà, New Avengers a été pendant longtemps la seule série Avengers, puis le relaunch après Disassembled, et que vu que la série Avengers tout court est revenue, il fallait vraiment se démarquer l'une de l'autre, hein, c'est ce que je disais la dernière fois. Donc, il essaye, je pense, d'avoir deux tons vraiment différents. Une série plus grandiloquente et une série au ton plus intimiste. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, voilà, je pense qu'il a vraiment essayé de se démarquer, en tout cas de faire se démarquer les séries l'une de l'autre.
Alors, oui et non, parce que justement, l'épisode suivant, totalement différent, on change totalement de registre, Mike Deodato au dessin et Howard Chaykin pour certaines parties.
Ah, oui. Le
Alors,
début de ces doubles histoires.
oui, exactement. Bon, enfin, grosso modo, donc, pour la partie principale de l'histoire, en tout cas, les Avengers affrontent Superia. Superia. Donc, visiblement, bah,
La
tous les
femme
noms
de
corrects,
supérieur, donc.
même pas.
Non, mais.
Oui, enfin, de toute
Oui,
façon, ça
c'était
aurait
une
été
vanne
compliqué.
ratée, mais.
Oui. Mais, enfin voilà, tous les noms corrects étaient déjà pris, semble-t-il. Et au fait, c'est d'anciennes milices du Hammer, donc l'équipe, enfin c'est plus qu'une équipe, c'est
Le Shield version Norman Osborn, non?
voilà, qui bah, reprend du service et les Vengeurs les affrontent et il y a des pertes dans l'équipe, enfin des pertes. Disons qu'ils sont sacrément en mauvaise posture à la fin de l'épisode.
D'accord.
C'est assez intéressant, c'est bourré d'action. Bah là, c'est tout le contraire en fait, c'est l'antithèse de l'épisode précédent. Donc c'est vraiment ce que je enfin, c'est un épisode que je préfère puisque voilà, pour moi c'est ça quoi. Du Avengers, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'action, du combat, de l'aventure, enfin autre chose que quelle marque de couche on va prendre pour le bébé. Bon, bah on va passer à la suite.
Ouais, il y avait la partie sur Watchkin qui
Ah
présente
oui.
l'histoire en 1959, je crois.
Voilà, donc bah là, là c'est enfin, les débuts d'une saga qu'on découvrira plus tard en français, d'ailleurs c'est évident. Que dire dessus? Pour le moment,
Voilà,
on en voit très peu. Hein,
ça se passe en
c'est
1959 et c'est en
voilà,
lien
c'est
avec les
ça. Et
Avengers.
on retrouve donc notamment Nick Fury. Mais on en saura plus prochainement. Parce que là, vraiment, c'est les prémices de. Je peux pas dire sur quoi ça va déboucher.
Bah
Sur
non,
ce
ce
tard.
serait spoiler. Mais en tout cas, savoir qu'il doit y avoir, je crois, 3 ou 4 épisodes, hein, comme ça, qui vont être coupés en deux et où il y aura 2 histoires.
Ensuite, épisode 500 d'Invincible Iron Man. Alors, Matt Fraction au scénario, bien entendu, avec Salvador La Roca, mais il est accompagné de Kano, le personnage de Mortal Kombat.
Oui, Kano, le dessinateur d'Iron Fist, entre autres.
Voilà.
Dont j'aime beaucoup le
Je n'ai pas
style.
tombé dans le piège. C'était bizarre.
J'aime beaucoup son style. Enfin, j'avais beaucoup aimé son Iron Fist.
Kano wins. Voilà. Nathan Fox et Carmine Di Giandomenico. Je suis content de l'avoir dit sans trop buter. Bah écoute, c'est la grande baston entre Stark et tous ses ennemis. Donc tu sais que le mandarin est de retour, qu'il est avec la famille Hammer, enfin ce qu'il en reste. Donc à ne pas
Oui, puisque
confondre avec le Hammer de Norman Osborn, hein, rien
il
à voir.
avait oui la famille oui de Justin Hammer. Il avait pris là justement Stane sous son aile à la fin du dernier épisode, c'était quand même la grosse révélation de tout cet arc un peu moisi de Most Wanted, je crois. Non, qui s'appelait Stark Resilient, pardon. Tu vois, je veux dire, les arcs sont tellement longs que je reviens à Most Wanted. Terrible.
Voilà, donc bah on voit surtout une vision futuriste du monde qui est dirigée par le mandarin. Et notamment Spider-Man aussi dans l'épisode, puisque on assiste à un team-up entre Iron Man et Spider-Man.
D'accord.
Voilà.
Bah,
Bon.
si vous voulez lire du mandarin, c'est vrai, on n'en avait pas parlé le mois dernier, il y avait un hors-série spécial avec l'annual de Iron Man, où on nous présentait une sorte d'origine du mandarin. C'était dessiné par Carmine Giandomenico, je crois.
Bon, enfin voilà, donc tout ce qu'il y a à savoir, c'est que y a une partie qui se déroule dans le présent et l'autre qui est dans le futur, puisqu'on est en 2052, je crois, voilà, c'est ça.
Ah, ok.
Bon, un épisode pas trop mal, mais c'est du Mad Fraction, donc bon bah c'est toujours assez long, même
Ouais.
si l'épisode est un épisode double. Voilà. Bon,
Un
d'ailleurs.
magazine finalement qui vaut l'achat ou pas?
Ah oui, quand même, oui. Oui. Là, surtout ce mois-ci, un numéro anniversaire, il se passe quand même quelques petits trucs intéressants, donc un Marvel Icons assez solide. Même
Parfait.
si nous n'avons pas Fantastic Four, mais rappelez-vous, on avait eu Three
Oui,
le
on
mois
n'aura
dernier.
pas de Fantastic Four avant, je crois, le mois de janvier.
Bah ouais, du coup. Mais en même temps, on a eu une grosse dose le mois dernier, et c'était à ne pas rater, d'ailleurs.
Si vous en trouvez encore et que vous ne l'avez pas pris.
Ah oui, là, il faut.
Mais je vous dirai bonne chance.
Ouais.
Parce que pour en trouver d'autres, ça va être difficile.
Ça va être très dur, en effet. Est-ce qu'on parle un petit peu de X-Men? Alors, j'ai pas lu X-Men, ni X-Men Universe ce mois-ci, mais toi, tu as lu du X-Men, malgré
Oui,
tout.
j'ai lu le X-Men Extra 86 qui prenait les 5 premiers épisodes de la nouvelle série Generation Hope. C'est scénarisé par Kieron Gillen. Au dessin, on a Salvatore Espin, accompagné de Scott Koblish pour les 3 et 4. Et le numéro 5 est dessiné par Jamie McKelvey. Donc en fait, on a un arc, 4 épisodes, et on a un cinquième qui est un petit peu les répercussions, les conséquences hein, de cet arc-là. Bon, je vais faire très vite. Hope et tous ses amis, hein, les fameuses lumières qu'elle avait été réveillées dans la série principale, Uncanny X-Men, qu'on avait pu voir ces derniers mois dans le magazine X-Men, bah vont partir en chasse de cette cinquième lumière, parce qu'il y en avait cinq. Et cette
D'accord.
cinquième lumière se trouve au Japon, à Tokyo. Et donc son pouvoir de mutant est déréglé, hein, comme pour les autres. Donc Hope va devoir aller le toucher pour bah, faire que son pouvoir, il le contrôle en quelque sorte, et que ça se calme. Voilà. Et donc comme on est à Tokyo, au Japon, le pouvoir de ce gamin va être... une grosse imitation d'Akira.
D'accord.
Alors, est-ce un clin d'œil?
Et ça me rappelle une série qui était au fait sur des nouveaux mutants comme ça qu'on découvrait. Alors je sais plus ce que c'était. Il y avait un, enfin c'était il y a longtemps. Hein, c'était à l'époque de Grant Morrison sur les New X-Men. Il y avait une espèce de mini-série au fait où on découvrait dans chaque épisode des nouveaux mutants. Et là, il y avait un épisode dessiné à la manière d'un manga où il y avait un mutant qui avait des pouvoirs au fait d'imiter des personnages, je crois, issus de séries manga. Enfin, c'était assez bizarre.
D'accord. Ouais, non, là c'est lui le gamin là, dans, en tout cas dans Generation Hope, ne contrôle plus. En fait, c'était un artiste et
Ouais, c'était un truc comme ça.
il
Sauf
se
que là, c'était
contrôle
peut-être...
plus. Et il devient vraiment,
D'accord.
c'est vraiment Akira quoi.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est de la facilité parce que ça se passe au Japon et que voilà, on prend un thème iconique. Je sais pas. J'arrive pas à me faire une idée là-dessus. Bon, c'est pas, honnêtement, c'est pas grandiose. Ça se laisse lire, mais c'est loin d'être ce que j'ai lu de mieux sur les X-Men. Même si je recule depuis un bon moment. On restera à l'épisode 5, qui donc se passe après. Est-ce qu'ils vont sauver ce gamin ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette cinquième lumière ou pas? Et puis voilà, quoi. C'est surtout l'intérêt du premier arc. Le deuxième, donc le dernier épisode, le numéro 5, c'est une sorte de conséquence. On a une discussion assez intéressante. C'est vrai que c'est quand même le meilleur épisode, hein. On a une assez intéressante discussion entre Hope et Xavier. Parce que Xavier n'avait pas encore rencontré Hope. Elle s'était un peu liée d'amitié avec Magneto.
Ah, Xavier, il aime bien parler aux petites filles.
Ouais, aux petits jeunes
Voilà.
mutants. Et bah, la discussion vaut le coup parce qu'elle lui en met plein sa gueule.
Ah, d'accord.
Elle détruit son rêve.
J'allais dire un truc dégueulasse, moi. J'allais dire, c'est pas l'inverse. Enfin, bon, bref.
Oui, c'est dégueulasse, effectivement. Mais non, elle détruit son rêve
Oh, le
en deux,
salope.
trois phrases. En deux, trois
Elle
phrases, elle
détruit
lui
son
prouve
rêve.
l'absurdité elle prouve l'absurdité du rêve de Xavier.
D'accord.
C'est assez marrant, ça vaut le coup. Après, bon, voilà, elle va finalement s'imposer en tant que leader d'équipe et avoir une petite discussion aussi avec Scott. Donc, très intéressante.
On m'avait dit du bien de cette mini-série.
Ah, c'est une série régulière, hein.
Ah, c'est oui, enfin bon, alors donc de cette série régulière, autant pour moi. Et bon, et alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment un truc à ne pas rater?
Bah, disons que la suite, faudra voir sur quoi ça part. Si c'est de la recherche de lumière à chaque fois, ce qui me fait peur, puisque le prochain épisode s'appelle The Sixth Light. Donc ça me fait un peu peur, mais que ce soit assez répétitif en tout cas. Mais bon là, ça, disons, voilà, comme je disais, ça se laisse lire. L'épisode 5 est de loin le meilleur de tous. Maintenant, c'est pas franchement excellent, quoi. Franchement, bon, 5 épisodes, ça va être 5,60€, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas excessivement cher à l'achat. Donc si vous n'avez pas grand-chose à lire, que vous avez vraiment envie de lire du X-Men, ou de savoir ce que devient Hope, bah allez-y, faites-vous plaisir. Maintenant, si l'X-Men c'est pas votre passion, vous pouvez passer à côté. Je pense que ce sera pas une grosse, grosse perte. Mmh. Voilà.
D'accord.
On va dire que c'est un check-it, quoi.
Ok. Non, parce que c'était justement lu par quelqu'un qui n'est pas spécialement fan des X-Men et qui, là, avait bien aimé ce truc-là. Donc, d'accord.
Je sais pas, moi j'ai trouvé la narration de Kieron Gillen un peu facile à certains moments et un peu lourde à d'autres passages, quoi.
Tiens, d'ailleurs, tu me fais penser, je les ai pas lus, enfin, j'ai pas lu le mensuel kiosque X-Men ce mois-ci. Mm-hmm. Néanmoins, je crois savoir qu'il s'agit de l'arc Contamination.
Ouais, Quarantine, ouais.
Et justement, je l'avais lu en VO. Donc finalement, je peux peut-être en dire deux mots.
Bah on avait la première partie le mois dernier.
Ah oui, bah d'accord.
Moi, ça
que j'ai pas lu.
Pas forcément passionné.
Ah si,
ça.
Si, je l'avais lu ça. Oui, exactement. Mais non, mais moi j'avais bien aimé cet arc. Je me rappelle, c'était pas si mal en anglais. Donc bon, à voir.
Oui, bah je dis pas que l'arc est mauvais. C'est juste que moi la première partie du mois dernier m'avait pas forcément super passionné. Mais en même temps, qu'est-ce qui me passionne chez les X-Men depuis voilà quoi. Je veux dire, on a eu Second Coming qui a été un petit sursaut, mais est-ce que c'est pas le dernier sursaut avant la mort?
Oula, Steve, tu es bien sombre aujourd'hui, dis donc. Non, enfin, en tout cas, je crois que c'était l'un des premiers arcs écrits par Gillen exclusivement, si
oui.
Je me trompe pas.
Oui, oui, oui.
Et j'avais plutôt bien accroché, et voilà, petit coup de cœur pour cet arc.
Ok. On va passer maintenant à autre chose.
Totalement.
Enfin, non, on va continuer dans le hors-série, hein, kiosque, avec cette fois-ci le Marvel Stars hors-série de ce mois-ci, qui est...
C'est le premier, d'ailleurs.
C'est le numéro 1, d'accord, je me rappelais même.
Parce qu'ils ont fait tellement de numéros hors-série extra, machin, tout.
Je suis perdu hein, dans leur numérotation française. Il y a des hors-séries qui se relaunchent, il y a des hors-séries qui se relaunchent pas, enfin... Assez bizarre. Bref, en tout cas, ça contient le prologue au Future Event qui va commencer le mois prochain en France et qui vient de s'achever aux USA.
Voilà, parce qu'ils ont fait une opération Flash Forward de chez Panini qui permet d'avoir ces épisodes assez vite.
Donc ça s'appelle Fear Itself, hein, je pense que tout le monde le sait. Oh bon, bah c'est le prologue. Book of the Skulls en anglais, donc le livre des crânes, hein, traduit littéralement.
Le livre du crâne d'ailleurs, peut-être. Ah non, Skulls est au pluriel.
Ouais.
Eh bien voilà. Ça, c'était la remarque.
Je ne sais plus d'ailleurs si c'est au pluriel ou au singulier.
Ah, je me demande si c'était pas Book of the Skull, tout simplement. Bah, bref!
Pas des masses. C'est Ed Brubaker au scénario.
Oui.
Donc, déjà, on sait d'entrée de jeu que ça va, en tout cas, s'intéresser pas mal au passé.
Oui, c'est vrai que, voilà.
Au dessin, par contre, je ne sais plus du tout qui est,
Ah, c'était pas Scott Eaton?
C'est bien possible aussi. Mm. Parce que, honnêtement, je ne l'ai pas relu, hein, depuis la VO.
Moi non plus, mais de mémoire, je dirais Scott Eaton.
Je te fais confiance, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus?
Bah écoute, que le prologue était pas si mal comparé à la suite.
Oui, oui. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment bien?
C'était intriguant. On va dire que c'était intriguant. Ça aurait pu donner lieu à un event assez intéressant parce que au début, on savait pas qui allait vraiment être l'ennemi, quelle était la menace, c'était pas encore bien défini. Et justement, on pouvait avoir de bons espoirs. Ouais. Et au fait, tout s'est écroulé à partir de Fear Itself numéro 1, que vous allez vite découvrir en français ou pas, c'est-à-dire que je vous renvoie peut-être à une discussion dans un Comics Weekly.
Bah, celui de la semaine dernière, le Comics Weekly 70, où on fait le bilan de Fear Itself. Alors, pour ceux qui ont envie de savoir à quoi s'attendre avec Fear Itself, vous pouvez écouter donc la partie Fear Itself, où on parle du dernier épisode. Alors, il y a quelques spoilers sur l'ensemble du crossover, mais pas beaucoup. Honnêtement, il y en a assez peu, mais il y aura du spoiler. Donc, attention, si vous voulez vraiment découvrir le truc, bah, je vous déconseille de l'écouter. Maintenant, si vous voulez juste savoir à quoi vous attendre, savoir ce qu'on en a pensé, Benny, Nono et moi, bah voilà, vous pouvez écouter ce bilan qui dure une petite vingtaine de minutes. On va faire un résumé très rapide. Pour Benny et moi, ça vaut pas l'achat. Vous pouvez faire des super économies dans les prochains mois.
Ouais, c'est-à-dire que la série principale et la plupart des tie-in sont pour moi totalement inutiles et d'ailleurs... Honnêtement, Fear Itself, à mon avis, aura peu de retombées et peu de conséquences sur l'univers Marvel, donc vous pouvez aisément vous en passer.
Ouais, voilà. grosso modo, voilà. Mais si jamais vous voulez savoir un petit peu à quoi vous attendre, allez-y, écoutez. Et pour les autres qui veulent les surprises, surtout évitez-le comme la peste, hein, bien sûr.
Mais non, mais surtout que l'histoire principale est particulièrement, à mon sens, mauvaise.
Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour moi, c'est très mauvais. Reste Nono qui lui a plutôt bien aimé. Donc,
et
voilà,
il travaille du chapeau. Hein.
oh, c'est beau ça. Donc voilà, bon bah c'est le prologue. À la rigueur, jetez un œil au prologue, même si honnêtement, la suite n'étant pas scénarisée par Brubaker mais par Matt Fraction, ce sera pas forcément la même chose.
Ce qu'on retiendra du prologue, c'est surtout que ça touche essentiellement Captain America et Thor, comme par hasard, les deux vedettes des films oui, sortis bah, récemment aux États-Unis, puisque de toute façon, enfin et en France, mais je veux dire, à l'époque où c'est sorti, on était en plein dedans.
Et encore une fois, c'est un event, comme on a cette trinité d'essai, c'est un event qui s'intéresse particulièrement à la trinité Marvel, c'est-à-dire Cap, Iron Man, Thor. Mm. Ils ont essayé de faire quelque chose d'iconique.
C'est ça.
Malheureusement, le problème, c'est que ils ont essayé. Seulement.
Alors, il faut savoir que ce Marvel Stars en série contient également une interview de Matt Fraction. Interview de l'auteur qui se veut assez... bah forcément, hein, il vend son produit assez optimiste. Ça sonne intéressant. Et puis finalement, dans les faits, au secours. Donc ne vous laissez pas non plus totalement, comment dire, manipuler. Alors à la rigueur, faites-vous un avis, achetez peut-être le premier Fear Itself.
Oui, peut-être, oui. Vous verrez bien.
On va rire satanique.
Allez, on va passer à un autre event.
Ouais, totalement différent, quoique.
Qui débute donc dans les pages de Marvel Universe 29, hein, qui est sorti ce mois-ci. Ça s'appelle Chaos War. C'est scénarisé, en tout cas pour la série principale, par Greg Pak et Fred Van Lanty. Donc là aussi, deux gros noms, moins en vue que Matt Fraction, c'est sûr. Pourtant, qui méritent plus leur place.
Bah ouais, tu vois, il y a quelques années, j'aurais pensé que Greg Pak et Fred Van Lanty, ou en tout cas Greg Pak surtout, peut-être, si je devais choisir, feraient partie de ce qu'on appelle des architectes Marvel, actuellement. Des architectes Marvel, il y en a cinq, au fait. C'est Bendis, Fraction, Aaron...
Nous avons aussi Jonathan Hickman.
Hickman, et puis il en manque un.
Le dernier, je ne sais plus.
En tout cas, ce n'est ni Greg Pak, ni Fred Van Lanty. Et dommage, parce que Greg Pak a fait de très bonnes choses, mais sur des personnages un peu secondaires, finalement.
Ben oui, il s'est intéressé particulièrement à Hercule, à
Hulk.
Hulk,
bien sûr.
Bah voilà, c'est vrai que Chaos War est un petit event, un peu comme l'était Shadowland, quelque chose qui ne touche pas l'ensemble de l'univers Marvel, mais qui se
quoique
peut-être plus dans son coin.
Au fait, si, enfin, ça touche quand même beaucoup.
Oui, mais au niveau répercussion,
ouais, tout à fait, ouais.
C'est comme Shadowland, c'est vraiment bloqué dans un coin de l'univers Marvel, le coin qui se vend un peu moins pour lecteurs qui suivent ce coin-là. C'est un peu plus difficile d'y rentrer pour les autres.
Parce qu'on voit quand même une ribambelle de héros, finalement.
C'est vraiment un crossover plus à l'ancienne, avec des milliards de personnages, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans ce numéro, on a les numéros 1 à 3 de la mini-série principale, donc Chaos War.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont publié les deux premiers, et ensuite, ils ont intercalé des épisodes spéciaux, donc je crois qu'il y a le spécial...
Oui, on a Chaos King.
Voilà.
Qui est par Brandon Monclar avec Michael WM. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein. WM chez moi, ça fait pas un son. Kabuta. Et Chaos War Ares par Michael Avenoming au scénario et Segovia et Rodriguez à la partie graphique. Mmh. Bon, voilà. On va essayer de résumer. Hercule est mort. Ça fait longtemps, hein. C'est pas un gros spoiler.
C'est pas un gros spoiler. On avait eu les épisodes de sa mort en français, chose étonnante, puisque du Hercule, finalement, on en a eu très peu en français.
On a eu assez peu, ouais. Ça s'appelait Assault on New Olympus, je crois.
On l'avait chroniqué l'été de l'année dernière.
Oui, ça remonte à il y a un an maintenant. C'est terrible, c'est super loin.
Je crois que c'était dans ce Comic City que tu avais intitulé Tranche de jambon.
C'est bien possible.
Donc, allez vérifier sur le site, tapez dans le moteur de recherche tranche de jambon et vous trouverez peut-être le Comic City correspondant à la review de cette mort d'Hercule.
C'est bien possible que ce soit tranche de jambon. Donc Hercule est mort et en mourant, ça va déclencher pas mal de petits problèmes. Et notamment l'accession au pouvoir d'un ancien dieu qui s'appelle Mikaboshi.
Oui, et alors, qui ne sort pas de nulle part. Parce que, bon, alors, petit... léger spoiler peut-être, l'ennemi principal de Fear Itself sort de nulle part. Voilà.
C'est le problème, oui. C'était un des gros problèmes.
C'est tout le problème. C'est pas quelque chose qui existe dans l'univers Marvel depuis des années. C'est un truc qui sort de nulle part et du coup c'est facile au fait de faire un scénario basé sur rien quoi, un truc qui sort comme d'un chapeau. Alors que là, il y a quand même une progression logique. C'est la conséquence de plusieurs événements.
Oui, exactement. Pour tout comprendre, il faudrait reprendre Hercule au numéro 1, ou plutôt au numéro 114, je crois, puisque ça suivait la série Hulk, hein, ça avait repris la numérotation. Bon, on peut se passer de ça. Pour ceux qui auront lu le dernier Hercule sorti en français, ça devrait suffire. Pour les nouveaux lecteurs, ça risque d'être un peu ardu, je pense. Ceux qui ne connaissent pas le personnage et qui ne connaissent pas cette ambiance et cet univers-là, je pense qu'ils vont être peut-être un peu perdus. C'est lisible,
Ouais.
mais ça va être un peu plus chaud, quoi.
Bon alors du coup, Mikaboshi.
Mikaboshi, c'est le dieu du chaos. Et il va ressusciter les morts, une sorte de Blackest Night, version Marvel.
Ce qui aurait pu être très intéressant si effectivement ça avait été développé à tout l'univers Marvel. Et que ce soit pas resté dans son coin. C'est-à-dire que si Chaos War avait été à la place de Fear Itself, c'est ce que dit d'ailleurs Xavier Fournier dans son article dans le Comic Box de ce mois-ci, eh ben ça aurait donné peut-être quelque chose de bien plus intéressant que ce qu'a donné Fear Itself. Et je suis entièrement d'accord, puisque
Ah bah.
Chaos War, dans les faits, est quand même plutôt pas mal. En tout cas,
Ouais.
l'idée est sympa.
Je peux que plus soyez hein, ce que tu dis.
Ben plus soit, plus soit.
Mais non, c'est vrai. C'est quelque chose de franchement très sympa.
Ouais.
Malgré tout, je pense que le problème, pour moi, reste que ça, c'est vraiment ardu
Eh oui.
pour un nouveau lecteur, quoi.
Oui, mais ce qui est dommage, c'est que bon alors là on refait le monde, mais si Hercule avait été à la place de Thor, s'il avait eu la popularité de Thor et que Thor ait été à la place d'Hercule, c'est-à-dire le personnage secondaire, eh bien peut-être que nous aurions eu du coup Chaos War en grand événement, un
On
film
aurait eu un
Hercule au
Chaos
cinéma.
War itself.
Non, ça aurait été un peu bizarre. Mais on aurait eu au fait un événement à la hauteur du personnage. On aurait eu du coup donc peut-être au cinéma un film Hercule, mais bah, peut-être que ça n'aurait pas été si mal hein,
Il y en a plein des
finalement.
films Hercule, mais c'est juste pas ce
Oui,
Hercule-là.
enfin Hercule Marvel, tu vois ce que je veux dire. Le truc c'est que voilà, c'est un univers et un personnage qui touche pas énormément de monde, énormément de lecteurs, et c'est dommage parce que quand on voit que ça donne un résultat comme ça. Bah voilà, ça restera dans les limbes.
Ouais, reste pour moi deux petits problèmes, entre guillemets. Le premier problème, ce sont les dessins de Coy Pam, qui n'est pas forcément, je trouve, un très très bon dessinateur. Il s'en sort, mais
Bah,
voilà.
il a changé son style pour Chaos War, surtout parce que je me souviens de lui
Il s'est
sur
amélioré, hein.
Mighty Avengers.
Ouais.
Non, mais moi je préférais peut-être certains de ses dessins dans Mighty Avengers que là.
Ouais, non, mais moi je reste bloqué sur cette image d'Electra, terrible, très moche, pendant Secret Invasion et...
Ah oui, c'est vrai que t'avais été traumatisé par
Ah,
la.
mais je le suis encore, hein. Je fais
Mais
encore des
c'est
cauchemars la
marrant
nuit
parce que j'en
en me
garde aucun
réveillant. Non,
souvenir.
non, pas Coy
Je
Pam.
me demande, c'est vraiment si j'avais lu ce truc-là.
Bah, ne le cherche pas et ne le lis jamais.
D'accord. Mais je dois l'avoir dans mes cartons en plus, hein, cette hors-série. Je crois que c'était sorti dans un Marvel Heroes hors-série, un truc dans le genre.
Ah,
Ou
je ne sais
Extra,
plus,
je
par
sais
contre.
plus.
Alors
Enfin.
là, la publication française, là, ça devient chaud pour moi. Donc voilà, il y a Coy Pam au dessin. Bon, il y a Tom Palmer à l'ancrage qui rattrape un peu quand même. Mais bon, il peut pas non plus tout faire. Et puis, il manque peut-être un petit peu d'humour par rapport à ce qu'on connaissait d'Hercule par Pack et Van Manty. C'est vrai que là, on est un peu moins dans l'humour, on est un peu plus dans le tragique. C'est peut-être aussi un des petits défauts, quoi.
Oui, puis tu te rappelles quand on avait vu l'annonce de cet event à l'époque où c'était sorti en VO, on s'était dit oula, ça va être super fun, super bourrin. Et au fait, bah fun, ça ne l'est pas tellement, effectivement.
Ah, en même temps, le sujet ne s'y prête pas énormément. Je veux dire, le retour de mort.
Oui, c'est.
En plus, il y aura des conséquences hein, sur l'univers Marvel, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, ce sera pas des énormes conséquences, hein, ce sera pas
Ouais, ce sera peut-être
le
même des
gros game
conséquences.
changer comme on a l'habitude, enfin comme on s'attend après chaque event. Voilà. Mais il y aura des conséquences, quoi. Des séries vont être relancées, des choses comme ça, donc.
J'allais dire, est-ce qu'on aura les conséquences en français? Oui, je pense, puisque dans l'état actuel des choses, vu que Panini n'a plus, entre guillemets, que Marvel, bah, je pense qu'ils vont publier un maximum de choses, donc il y aura très peu de choses que nous n'aurons pas, à mon avis, en français, du
Bah,
coup.
on va avoir des conséquences puisqu'il va y avoir des choses, bah, les choses qui vont être lancées vont être tying à Fear Itself. Alors après, on les aura pas, je sais pas, parce que c'est pas forcément des choses importantes pour Fear Itself, mais ce sont des choses qui sont tying. Donc s'ils essayent de publier le maximum de matos de Fear Itself, ils seront obligés de les publier. Bref, voilà. En tout cas, c'est très sympa, certes un peu ardu pour les nouveaux lecteurs, mais c'est lisible. Donc voilà, moi je vous encourage à prendre Marvel Universe. C'est vrai que c'est un peu moins cosmique, mais ça reste du gros lourd, quoi.
C'est du gros lourd. Oui, bah d'ailleurs, c'est avec des gros lourds, on va dire. Des poids lourds. Et c'est ardu, mais barbu. Ça veut rien dire ce que je dis.
C'est bardu donc.
C'est bardu. Allez.
Voilà.
Et toujours, quand même, précisons-le et rappelons-le, Marvel Universe ne coûte que 5,60 €. C'est quand même le kiosque avec lequel vous avez le plus de pages pour ce prix.
Oui, c'est clair.
Et c'est toujours quand même de la bonne came, de la bonne lecture. On met le temps à lire ces épisodes. Et tant mieux, tant mieux.
Oui, bah oui, c'est ce qu'il faut,
On ne
qu'on
peut
en ait un
qu'encourager
petit peu.
ce genre de publication.
Bah, qu'on en ait pour notre argent, c'est vrai. C'est l'aspect économique, il faut pas voir que l'aspect économique des choses, mais
Bah quand c'est
honnêtement, ça
bon,
joue, quoi.
oui
Ça
voilà,
joue.
quand c'est bon en plus,
C'est vrai que quand on prend un truc,
disons-le.
qu'on met des plombes à lire parce que putain, ça traîne et c'est long et que c'est dur à lire parce qu'on s'emmerde, je suis pas sûr que ça vaille l'achat. Mais voilà, quand c'est long et que c'est bon, hein, pour
Très
citer le
bien, c'est
proverbe,
voilà. En
et ben
plus,
voilà, c'en
tu
est que
restes dans le
mieux.
thème d'Hercule.
C'en est que mieux. Oui, on va vite essayer de récupérer le truc avant que ça
Oh
glisse
tiens, un savon.
définitivement.
Je vais le ramasser.
Bien. Avant de continuer nos reviews, puisque non, ce n'est pas fini.
Bah non, ce serait trop peu.
Oui, ce serait trop dommage, il y a encore plein de bonnes choses qui nous attendent. Mais on va passer à quelque chose de très bon là aussi, qui n'est pas une review.
Ah.
Ce n'est pas une review, c'est la rubrique de
De Jean-Loup,
Jean-Loup. Le
le Back
Back
to
to
the
the
Comics.
Comics, qui cette fois-ci a un guest star.
Oui.
Attention.
Oui, dis-le bien, un guest star.
Oui, un guest. Oui, non, ça y est, je viens de comprendre. Oui, un guest star.
Oui.
Voilà.
Et alors, est-ce qu'on dit de quoi ça va parler un petit peu? Bon, disons que
Oh.
c'est en lien avec le LCF.
Voilà.
Comme ça laisse quand même pas mal de possibilités.
Voilà, en lien avec le LCF, tu l'as très bien dit. Eh bien, on vous laisse écouter ça. Et on se retrouve juste après. Et puis bah, déjà d'avance, merci Jean-Loup de nous faire rigoler. Autant. Et de nous faire apprendre des choses. Et de nous faire apprendre des choses. Non, parce que c'est très important. C'est très très important. On rigole, mais on apprend. Et
Oh, c'est
ça, c'est
beau.
beau.
Oui.
Allez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Tout droit, tout droit. C'est bien, continue tout droit maintenant.
Oui, bon, en même temps, on est sur l'autoroute, je risque pas de trouver beaucoup de carrefours pour tourner, hein. Ah, vous êtes là? Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Back to the Cop! Hey, tiens ta droite, chauffard!
Hey, je vais pas dire, mais c'est toi qui mordais la ligne. Tu ferais mieux de te concentrer sur la route au lieu de parler aux auditeurs. Tiens, arrête-toi sur cette aire d'autoroute, on va faire une pause. Ah, ça va mieux. Eh tiens, regarde ce gars qui fait du stop sur le parking, on a qu'à le prendre avec nous?
T'es sûr que c'est une bonne idée?
T'inquiète pas, de toute façon, s'il y a un problème, Bibi est là pour te protéger.
Bonjour.
Bonjour, je vais à Lille, vous pouvez m'amener?
Pas de problème, si c'est tout droit, c'est sur notre route. Montez derrière.
Merci beaucoup.
Jolie mallette, vous voulez la mettre dans le coffre?
C'est gentil, mais je préfère la garder sur moi. Au fait, je m'appelle Kiwikid.
Enchanté, moi c'est Jean-Loup.
Et
quoi?
Bah vous, comment on vous appelle?
Moi? Oh, généralement sur mon portable.
Ok.
Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, faites pas attention à lui, hein. Et sinon, c'est joli Lille comme ville, vous allez faire quoi là-bas?
Bah tu peux me tutoyer hein, si tu veux. Je vais à Lille pour le LCF, la 6e édition du Lille Comics Festival.
Le Lille Coac? Ah, je connais pas.
Mais si, la grande rencontre de tous les fans de comics dans le nord de la France. Cette année, il y a Don Rosa qui vient.
Qui?
Comment ça, qui? Tu te fous de moi? Don Rosa, le fameux auteur de la Genèse de Picsou.
Oh, tu sais, moi, les comics.
Ouais, c'est bon, allez, dépose-moi, je descends.
Non, 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 c'est une blague! Referme la portière! En fait, je connais carrément Don Rosa, j'ai même lu La Jeunesse de Picsou quand j'étais petit.
Allez, je vais s'en venir gros comme une maison, et c'était quand à peu près?
La Jeunesse de Picsou a été publiée pour la première fois en mars 1994. Cette année-là...
Non, 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 hé, hey, attends, attends.
Quoi?
Pour bien comprendre La Jeunesse de Picsou, faut revenir aux origines. En 1987, Kenno Don Rosa décide de relire l'intégralité des planches dessinées par Karl Barks pour compiler un maximum de détails sur le passé de Picsou. Au total, l'œuvre de Barks représente plus de 6000 pages. C'est donc un véritable travail d'archives que Don Rosa effectue pour tenter de reconstituer la biographie du canard le plus riche du monde à partir des détails les plus loufoques de son passé. Don Rosa travaillait à l'époque pour Blackstone Publishing, maison d'édition nord-américaine possédant les droits des comics Disney. En 1989, suite à un différend avec Disney qui ne veut plus rendre les planches originales aux auteurs, Don Rosa quitte Blackstone. Un an plus tard, on le retrouve au sein de la société Egmont, qui publie les comics Disney au Danemark et dans plusieurs autres pays scandinaves. Il rencontrera alors un succès mondial en 92 avec La Jeunesse de Picsou.
Didi, je peux parler de l'année 92? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Bah oui, vas-y, fais-toi plaisir.
En 1992, entre George Bush et Boris Yeltsin, en Europe, on a le couple François Mitterrand et Helmut Kohl. La France et l'Allemagne se rapprochent indéfectiblement cette année-là, notamment avec la diffusion des toutes premières émissions de la chaîne Culture Arte. Mais 1992, c'est aussi malheureusement le début de la guerre de Bosnie-Herzégovine qui durera jusqu'en 1995. Au cinéma, le box-office français est partagé entre les productions grand public hollywoodiennes telles que Basic Instinct, Hook, Batman le Défi...
Et Sister Act aussi.
Ah oui, c'est vrai. Et les films d'auteurs français comme Indochine, L'Amant ou Les Nuits Fauves. En musique, l'époque est aux guitares électriques saturées avec des albums tels que Tostaki de Noir Désir ou Rage Against the Machine du groupe éponyme. Bon allez, je vais être sympa, je vais quand même citer ton chanteur préféré, Jordi, et son célèbre tube « Dur, dur d'être un bébé ».
Très drôle.
Bon, et si on en revenait à ce bon vieux Balthazar? De son Écosse natale à Donaldville où il construira son fameux coffre-fort, la jeunesse de Picsou se compose de 12 épisodes qui suivront l'oncle Picsou, Scrooge McDuck en VO, du moment où il gagne son fameux sou fétiche jusqu'au moment où il devient la première richesse mondiale. Tous ces épisodes se déroulent entre 1877 et 1947. Ce choix n'est pas un hasard puisque 1947, c'est l'année de création du personnage de Picsou par Karl Barks.
Toutes les histoires de Picsou écrites par Don Rosa se déroulent avant 1967, année où Don Rosa a envisagé la mort du canard à l'âge symbolique de 100 ans, mais aussi année à laquelle Barks prend sa retraite. La boucle est donc rétroactivement bouclée. Et est-ce que vous saviez que Don Rosa jouait avec ses lecteurs en cachant dans les épisodes qu'il a dessinés les fameuses initiales D.U.C.K.
J'en ai entendu parler, mais ça veut dire quoi D.U.C.K.
Ça veut dire Dedicated to Uncle Carl from Keno. Autrement dit en français, dédicacé à l'oncle Carl de la part de Keno. Si l'éditeur interdisait les dédicaces nominative, il ne pouvait en revanche pas empêcher l'auteur d'écrire le mot canard, ne voyant généralement pas les initiales souvent bien cachées dans les premières pages et les couvertures des histoires dessinées.
Ah, il y a un autre clin d'œil aussi, c'est les apparitions de Mickey cachées dans certaines histoires sous diverses formes telles qu'un cactus ou encore d'une souris en culotte écrasée sous un pied d'éléphant.
Oui, d'ailleurs, on peut se demander si ces références souvent assez grinçantes n'exprimeraient pas une certaine rancune de la part de l'auteur envers la maison Disney, avec qui il a eu de sérieux différends.
Eh, c'est toujours mieux que de bouder dans son coin, coin. Dans son coin-coin.
Bref, si la jeunesse de Picsou comprend officiellement 12 épisodes, Don Rosa dessinera par la suite d'autres épisodes venant s'intercaler entre ceux déjà créés, bien que l'auteur considère qu'ils ne font pas partie de la jeunesse de Picsou. L'épisode le plus controversé est sans doute le 8 bis, l'un des meilleurs épisodes de la saga. Il pose la relation entre Balthazar Picsou et Goldie Hawgilt, relation tumultueuse qui marquera Picsou à vie, bien qu'elle se soit rapidement interrompue.
Ouais, on peut dire que leur relation a été avortée dans l'œuf de canard.
C'est peut-être ce mélange d'humour et de tragédie qui a fait gagner à Don Rosa 2 awards.
Awards the Dike ?
Mais non, des Eisner Awards. Celui de la meilleure série en 95, puis celui du meilleur auteur-dessinateur, catégorie humour, en 97. T'es con ou tu le fais exprès ?
Je crois qu'il est un peu des deux, malheureusement.
Ah bon, ça va, hein. Si c'est ça, moi j'ai plus rien.
Ah, excuse-moi, il y a une aire d'autoroute par là. Ça vous dérangerait de marquer un arrêt ?
Non, pas de problème.
Merci, vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps.
Tiens, il a pas pris sa mallette avec lui ? Eh, dis, tu la trouves pas bizarre, toi, cette mallette ?
Non, pourquoi ?
Bah, ce gars, on le connaît à peine, il garde sa mallette contre lui pendant tout le trajet, et à la première occasion, il la laisse sans surveillance. Si ça se trouve, c'est un tueur à gages. Et là-dedans, il y a peut-être une bombe !
Un tueur à... N'importe quoi.
Moi, je dis, il y a qu'un moyen de savoir ce qu'il y a dans la mallette, c'est de l'ouvrir.
Quoi ? Mais on fouille pas dans les affaires des gens comme ça, ça se fait pas !
Oh, allez, c'est bon, il est pas là, il en saura rien. Bon, allez, je l'ouvre. Oh !
Quoi ?
C'est beau !
Bon, bah, tu l'as ouvert, maintenant montre-moi ce qu'il y a dedans.
Ah non, pas question, t'as pas voulu que je l'ouvre, tu verras pas ce qu'il y a dedans.
Mais allez, montre-moi !
Non !
Mais montre-moi ! Mais.
Ah bravo, hein, t'as renversé le contenu de la mallette.
Mais y'avait quoi dans cette putain de mallette à la fin ?
Bah, y'avait une pièce américaine de 10 cents.
10 cents ? Oh purée, je la trouve pas, elle a dû glisser sous le siège conducteur. Ah ! Tu l'as ?
Ah non, fausse alerte, c'est juste un vieux chewing-gum tout dur.
Oh non, 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 non. Et en plus, y'a Wicked qui revient.
Attends, je sais ce que je vais faire.
Ok, fais ce que tu veux, mais dépêche-toi de fermer la mallette, il arrive.
Ça y est, j'ai mis le vieux chewing-gum tout dur à la place de la pièce dans la mallette. Même poids, même bruit, et il verra que du feu.
Attends, tu as mis le chewing-gum ouf ?
Vous avez pas le chewing-gum ?
Nous ? Non.
Ah bon ? Je croyais, non, parce que c'est marrant, je viens d'en acheter. Vous en voulez ?
Oups. Non, merci, non.
Bon, bah tant pis. On en était où, en fait ?
On parlait des épisodes bis de la jeunesse de Picsou.
Ah ouais. À tous ces épisodes, il faut rajouter aussi le numéro 0, dans lequel Mystique tente de voler le sous-fétiche de Picsou, remontant le temps jusqu'au jour où Picsou gagne sa première pièce et qui marquera le début de sa fortune, faisant de lui le personnage fictif le plus riche au monde devant Tony Stark et Bruce Wayne selon un récent classement paru chez Forbes.
Tiens donc, remonter le temps, ça me rappelle quelqu'un, ça. Pas vrai, Jean-Lo ?
Jean-Lo ? Ah mais oui, je viens de tilter. C'est vous, les deux zozos qui remontez le temps pour parler de vieux comics. Ce qui veut dire que je suis dans la chaleur réelle. La seule, l'unique, la vraie. Celle qui voyage dans le temps, quoi.
Tu nous connais ? Et tu veux un autographe pour frimer devant tes copains ?
Il rigole, mais en fait, c'est pas nous, hein. Avant qu'on démarre, je peux te parler dehors deux secondes.
Ok.
Écoute, on va pas pouvoir lui cacher longtemps ce qu'on a fait. Il faut lui dire la vérité.
Mais relax, quand il s'en rendra compte, on sera déjà très loin. On le dépose à Lille et on le reverra plus, mec. No soucis.
Ouais, à moins qu'il ouvre la mallette pendant qu'on est en train de parler dehors. D'ailleurs, on ferait peut-être bien de retourner dans la Jean Lauréane avant qu'il...
Ne nous la pique. Oh non. Oh. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Je savais que j'aurais pas dû t'écouter quand tu m'as dit de le prendre en stop.
Ouais, ouais, c'est bon, ça va, désolé. Ouais, si ça peut te consoler, au moins, c'est pas un tueur à gage.
Hein ? Il est revenu ?
Peut-être qu'il a été pris de remords.
Ah, j'en sais rien, mais on ferait bien d'y retourner.
Alors les gars, vous êtes sûr que vous avez rien à m'avouer ?
D'accord, d'accord, je vais tout te dire, mais pitié, ne me fais pas mal. C'est lui qui a tout manigancé.
Quoi ?
Mais ça va, c'est bon. Je sais bien que c'est vous, les gars de Back to the Comics.
Ah, tu nous parlais de ça ? Ah bon bah, c'est bien nous, tu nous as démasqués.
Désolé de vous avoir piqué la Jean Lauréane. J'en avais besoin pour faire un petit tour en 1947.
Et t'as plus ta mallette ?
Bah, je devais la remettre à un certain Karl Barks.
Et ça s'est bien passé ? Enfin, je veux dire, t'as pas eu de problème ?
Bon, non. Je lui ai remis la mallette en lui soufflant que son contenu l'aiderait sûrement à écrire le nouveau personnage sur lequel il était en train de bosser, et le tour était joué. Vous vous rendez compte ? C'est un peu grâce à moi. et à vous si Picsou a gagné son premier sous fétiche. Sur ce coup-là, merci les gars. Sans vous, Karl Barks n'aurait pas inventé Picsou et Don Rosa n'aurait jamais écrit sa jeunesse.
Qu'est-ce qu'on fait, on lui dit ?
Tais-toi, Hyrule. Oh, quel cauchemar.
Pardon ?
Non, je disais, quel canard ? Enfin, dans quel canard ? Quel magazine, quoi ? Vous avez connu la jeunesse de Picsou ?
Tiens, oui, c'est vrai, ça, moi, pour ma part. J'ai lu une partie des épisodes dans Picsou Magazine lors de leur première parution entre 94 et 96.
Ah oui ? Moi, de mon côté, en fait, un jour, j'ai trouvé en kiosque la première intégrale de la jeunesse de Picsou. Bah, ça a été l'une des lectures les plus marquantes de ma vie.
Ah bah, tiens, c'est marrant, on est arrivé à Lille. Bon, ben voilà, je crois qu'il est temps de nous séparer. Bon courage hein, pour le LCF.
Ouais, et peut-être à bientôt, qui sait. J'ai comme l'impression qu'on se reverra.
Oui, mais pas trop vite hein, quand même.
Bye, bonne route. Ah, et au fait, pour vous remercier, je vous ai laissé un exemplaire de l'intégrale de la jeunesse de Picsou sur le siège arrière. Alors, bonne lecture.
Ah, merci. Fallait pas. Bon, bah, salut, hein.
Et voilà, tu vois, ça s'est bien passé finalement. Comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était. Regarde un peu cet exemplaire de la jeunesse qu'il nous a laissé. C'est pas une pièce de 10 cents qui devient le porte-bonheur de Picsou, mais un vieux chewing-gum tout dur qu'on lui a donné étant gamin. Du coup, le canard a fait fortune dans l'industrie du chewing-gum et n'est plus que la 5e plus grosse fortune mondiale de tous les temps. Oh misère, on a changé le cours de l'histoire de la bande dessinée.
5e, c'est tout. Bof, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Eh tiens, regarde ce que je viens de retrouver sous mon siège. Une pièce américaine de 10 centimes.
C'est pas vrai. Si. Il nous reste encore une chance de rétablir la situation. Vite, il nous faut retourner en 1947 et remplacer le chewing-gum par cette pièce avant que Karl Barks n'ouvre la mallette. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous au LCF pour savoir si nous avons réussi à remettre les choses dans l'ordre. Et d'ici là, vérifiez bien vos exemplaires de la jeunesse de Picsou. Allez, salut à tous!
Merci Jean-Loup! Et merci à KiwiKid de sa participation à ce Back to the Comics. Très instructif, comme toujours. Et on revient maintenant au review.
Au kiosque, toujours?
Ouais, on va rester dans le kiosque. On va faire un petit tour du côté de chez Swan. Non, DC.
Oui, du côté de chez DC, tant qu'il y en a.
Oui, bah oui, tant qu'il y en a chez Panini.
Voilà. Et on va commencer peut-être avec ce qu'on a lu tous les deux. Enfin, tous les deux. T'as tourné les pages, et moi je lisais, quoi. Batman Universe.
Le Batman Universe numéro 9. Et on commence ce magazine avec Batman 701 et 702 par Grant Morrison et Tony Daniel au dessin. Ça s'appelle RIP. Enfin, R.I.P. The Missing Chapter, donc c'est le fameux épisode, on va dire l'épisode manquant entre RIP et Final Crisis.
Alors ce qui est très fort, c'est qu'avec un épisode manquant, il en fait deux, puisque c'est en deux épisodes finalement.
Oui, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Ben, comment Batman s'est échappé de cet hélicoptère qui est tombé dans l'eau avec le Dr. Hurt ?
Oui, bah et... comment il s'est retrouvé au fait dans cette espèce de caisson aussi ? Au fait, ça montre tout le passage entre le moment où il y a le crash d'hélicoptère et le moment où il est frappé par ce rayon de la mort qui tue et qui transporte les gens dans le temps.
Ouais.
Jusqu'à la préhistoire. C'est extraordinaire, monsieur.
C'est magnifique. Je veux la même chose à Noël.
Voilà, et bah tu l'auras.
Bah, tu l'auras. M'envoyer des gens dans le temps, crois-moi.
Et donc voilà, et ça montre un peu tout ça. Alors, ce que je trouve un peu mauvais, au fait, c'est-à-dire que quelquefois, Grant Morrison, tu as l'impression vraiment de rater des choses. Tu n'arrives pas à comprendre comment tel personnage arrive du point A au point B. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je t'avoue que moi, dans ces épisodes, j'avais réussi à l'époque à faire le lien dans ma tête sans trop de problèmes. Et je trouve pas que ça demandait deux épisodes pour te montrer ce qu'il faisait, au fait.
Entièrement d'accord. Est-ce qu'il y avait besoin d'expliquer ?
Mais il n'y avait pas besoin d'explication, je trouve. Alors, certes, il nous place juste une espèce de pseudo-truc imagé sur la balle magique, qui aurait peut-être été la balle qui a tué Kennedy ou je ne sais quoi.
Oui, enfin, c'est la balle qui tue tout le monde.
C'est la balle qui tue tout le monde.
Et ça, c'est-à-dire, as-tu Orion et as-tu tous les gens.
Oui, mais c'est une espèce de marotte de beaucoup de scénaristes, ça, qui, bon, alors, aux États-Unis, bien sûr, encore plus qu'ailleurs, puisqu'ils ont été marqués, ça fait partie de l'histoire américaine, oui, enfin, évidemment.
Grant Morrison est anglais, hein.
Oui, non, mais c'est pas grave. Non, enfin, tu me comprends. C'est pour un public américain. Enfin, voilà. Oui, c'est... Ça fait partie du folklore, on va dire, je sais pas comment dire, américain, cette histoire de balle magique qui assassine le président Kennedy. D'ailleurs, une balle qui assassine, c'est tout un concept. Mais toujours est-il que voilà, bon, bah, c'est pas spécialement intéressant et surtout, je pense pas que ça demandait voilà deux épisodes pour expliquer un truc dont on pouvait aisément se faire sa propre petite gymnastique.
Ouais, et puis moi ce qui me gêne un peu c'est qu'il y a une espèce d'auto-apitoiement de Batman, enfin de Bruce Wayne sur lui-même, qui je trouve n'est pas forcément nécessaire et nous montrer que ce personnage a des faiblesses, d'accord, mais là je trouve que c'est un petit peu poussé quoi. Oui, ok, il a été tenu en échec par le Dr. Hurt, et alors il a déjà été tenu en échec par d'autres avant, et il a pas autant pleuré quoi.
Oui, on a l'impression que c'est pour montrer que le Dr. Hurt, voilà, il est super balèze, c'est l'ennemi ultime, et on n'y croit pas.
Docteur Horde, j'y ai pas cru depuis le départ, moi, donc voilà, moi. Bref.
Je crois voilà, il a pas de charisme. Autant Hush. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Hush, putain. Voilà, il en impose. Le Docteur Hurt. Bah justement, on y vient.
Ouais, ouais, passons à la suite. Le Batman et Robin 15 et 16, donc Grant Morrison toujours au scénario. Alors, Fraser Irving pour la partie graphique du numéro 15, et pour le numéro 16, c'est toujours lui, accompagné de Cameron Stewart et de Chris Burnham.
Voilà, parce que c'est un épisode un peu plus épais que les autres.
C'est un épisode double, hein, qui fait une trentaine de pages. Un épisode où, justement, on a trois parties distinctes, avec trois dessinateurs différents. Bon, c'est la fin de ce fameux arc Batman et Robin doivent mourir. Qu'est-ce qu'on peut résumer là-dessus? Là, encore une fois, c'est pareil, c'est très difficile à résumer sans spoiler. Et en même temps, il n'y a pas énormément de choses à dire. On nous fait des liens avec le Return of Bruce Wayne dont on n'a pas encore eu la fin. Donc ça, c'est cool. Facile pour les gens de s'y retrouver. Oui.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est vraiment la narration à la Morrison, où d'un seul coup, tu te dis, oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ah bah oui, d'accord, il faut lire... c'était pareil avec Batman Rip, il fallait lire Final Crisis, et bah là, il faut lire Return of Bruce Wayne pour comprendre ce qui se passe entre les deux épisodes.
Le problème aurait peut-être été de publier la fin de Return of Bruce Wayne ce mois-ci, et non pas le mois prochain.
Voilà. Alors, ils expliquent que pour des problèmes techniques, malheureusement, ils pouvaient pas le publier maintenant.
Oui,
je sais pas de quel problème technique il s'agit.
Ah ben moi, pour des problèmes techniques, là, pendant les deux prochaines secondes, je vais pas pouvoir parler. Ah, voilà, désolé. Non, mais enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
Franchement, fais des simagrées plus souvent.
Non, pour moi, c'est ridicule, parce que là, déjà, d'une, ça nous spoil la fin, même si on se doute bien du retour de Bruce Wayne, ça nous spoil la fin. Deuxièmement, ça reste quasiment incompréhensible, puisque si t'as pas lu les trois derniers épisodes de Return of Bruce Wayne, toute cette espèce de mythologie sur Barbatos, mes couilles, tu captes...
Déjà, tout
même... Même que déjà en l'ayant lu, tu captes pas grand chose alors.
C'est pas Barbatruc. Je sais plus.
Ouais, je crois que c'est Barbatos, hein.
Non, bien sûr, non, mais il y avait un truc Barbatruc, et puis après tu te caches derrière. Enfin bon.
C'est pas la famille Barbapapa, ça, tu
sais. Ah peut-être.
Je ne sais plus. Bref.
Mais Barbatos est issu de la famille Barbapapa, au fait, il y a erreur.
Non, le point le plus intéressant de cet arc tient en trois choses, on va dire. Le sort du docteur Hurt, va-t-il s'en sortir? Va-t-il réussir à pourrir Batman jusqu'au bout ou pas? Bref, tout ça.
C'est lui qui va se faire pourrir.
Le Joker,
oui.
Qui tient encore une fois une grande place dans cet arc-là. De toute façon, on le savait déjà, mais là encore une fois, jusqu'où ira-t-il? Et qu'est-ce qu'il va faire pour aider ou justement mettre des bâtons dans les roues à Batman et Robin? Et puis, cette annonce finale qui va lancer la nouvelle série de Grant Morrison.
Batman Inc. Ouais.
Batman Incorporated. On va pas en révéler plus là-dessus. Vous découvrirez ça dans les prochains mois. Bon, voilà. Reste que pour moi, c'est franchement bof, bof, quoi. Le début de l'arc, je l'ai trouvé très intéressant. Et puis alors, vers la fin, ça tombe, quoi.
Ben déjà, moi, dans l'épisode 15, la narration de Morrison, j'y comprends plus rien. C'est-à-dire que, à un moment donné, Dick a un masque, ouais. Ensuite il l'a plus, ensuite il l'a à nouveau.
Ah ouais, non, mais cette scène est terrible, quoi. Terrible.
Je ne comprends rien.
C'est-à-dire
que
le mec se fait malmener, on va dire ça comme ça pour pas spoiler. Il est à visage découvert. Et il saute sur le docteur Hurt, et en l'espace d'un saut, il a réussi à remettre son masque.
Oui. Alors il y a cette histoire de la balle qui lui traverse le crâne, mais pas trop. Et puis il y a aussi les dialogues avec le docteur Pig qui ne veulent, mais à mon avis, hein, strictement rien dire.
Oui, après, mais le docteur Pig, ça a toujours été un ennemi de merde, donc voilà, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant.
Ouais, et on nous le met à toutes les sauces, à la sauce moutarde.
ouais. Passons. Non, mais voilà, j'espère que c'est un ennemi qui va disparaître avec Morrison qui disparaît aussi du titre.
Oui, enfin, peut-être qu'on le retrouvera dans Batman Inc. du coup.
Oui, peut-être.
Je touche du bois pour que non.
Moi aussi.
Voilà, le storytelling de Morrison, je n'y comprends rien.
Ben, ça vient aussi peut-être des dessins de Fraser Irving, parce que sur cet épisode 15, il est...
Je crois pas, parce que dans Final Crisis, déjà, il y avait plein de trucs que je comprenais pas, mais c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'on parle de Morrison comme d'un grand auteur, et pourtant, le B.A.B.A., c'est quand même que son storytelling, quand il raconte une histoire, soit accessible au commun des mortels, quoi.
Qu'il doit s'adapter en fonction du dessinateur, parce que quand tu regardes les parties dans l'épisode 16, dessinées par Cameron Stewart ou par Chris Burnham, l'enchaînement est plus logique. Avec Fraser Irving, c'est différent. Et je pense qu'il doit vraiment adapter son style de narration au dessinateur auquel il a affaire.
Ouais, mais là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'étais perdu, et pourtant, je lis de la bande dessinée depuis que j'ai 6 ans, donc il y a un problème.
Par contre, moi, j'aime toujours autant le dessin de Fraser Irving, et il peint un Joker, je trouve, majestueux.
Oui, inspiré de, je sais plus comment ça s'appelait, l'homme qui rit ou l'homme qui sourit.
L'homme qui sourit, oui.
L'homme qui sourit.
Mais en tout cas, oui, sourit, on reconnaît tout à fait le truc, quoi. Enfin, tout le monde a déjà vu une image dans sa vie.
Ça. Oui, voilà, ouais. Peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, tapez-le sur googlisez-le, comme on dit. Hein, du verbe googler, d'ailleurs, même c'est mieux. qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le truc, je sais pas si t'as compris, de la boîte, là, où il piège le docteur Hurt. J'ai rien compris.
Alors, cette histoire de Dieu Batman, moi, honnêtement, ça me pète les couilles. Alors, pour rester poli, en plus.
J'ai rien compris à comment il arrive à l'entourlouper avec l'histoire de la boîte. C'est-à-dire, il ouvre une boîte, il y a marqué piégé, je t'ai eu.
Parce qu'il avait déjà dû vider le contenu de la boîte avant, je pense. Mais
c'est brouillon. Et oui, alors, au final, donc, Dr. Hurt, c'est un ancêtre de Bruce Wayne, c'est ça?
Ouais, apparemment.
Des cérémonies mystiques, sataniques, etc., l'ont rendu pas immortel, mais ont prolongé considérablement sa vie.
Ouais, c'est à peu près comme ça, je l'ai compris aussi. Mais en fait, moi, ce qui me gêne avec Morrison, c'est que, on en parlait juste avant d'enregistrer l'émission, tous les deux, mais voilà, moi, je n'apprécie pas le fait qu'il essaye de mystifier à fond le personnage de Batman, avec un espèce de dieu chauve-souris, cette espèce de voyage à travers le temps qu'il nous a imposé par Final Crisis et Return of Bruce Wayne. Moi, tout ça, ça m'ennuie profondément. Batman est un street level character.
Voilà. Et c'est exactement ce que disaient les lecteurs à propos du Spider-Man de Straczynski. C'est-à-dire, c'était quand il avait fait tout le trip avec les araignées mystiques, le dieu Anansi, etc., ses pouvoirs étaient peut-être d'origine mystique et pas scientifique. Eh bien, beaucoup de lecteurs n'avaient pas accroché pour ça et lui étaient tombés dessus. Et là, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi dans le Morrison de Batman. Alors, après, moi, je serais un petit peu moins... j'aurais un avis un peu moins tranché que le tien. C'est-à-dire que, pourquoi pas? Mais encore faut-il que ce soit bien écrit. Autant Straczynski sur Spider-Man, j'adorais. Autant là, Morrison, il y a des épisodes sur lesquels je ne comprends rien.
Qui est des histoires de totem par rapport à la symbolique animale, je le comprends tout à fait. Ça, c'est même tout à fait logique. Tu peux pas décider d'aller pourchasser les criminels habillés, ou en tout cas avec un nom à consonance animale, sans qu'on t'apporte une histoire de totem, etc.
Oh, je suis tout à fait. Ça, moi, je me déguise toujours en cochon.
Pour un mec qui s'appelle Honey Bunny, se déguiser en cochon,
c'est bizarre, tiens.
C'était toi le professeur Pig, hein, c'est ça?
Ouais, bon, j'avoue, je suis un professeur Pig dans la vie.
C'est qu'ils ont mal réussi à te traduire, c'est pour ça, d'où les problèmes.
Et à me dessiner quand même.
Parce que... Oui, je pense, c'est pas très ressemblant.
J'espère, pour moi.
Moi, c'est vraiment cette symbolique mystique de la chauve-souris qui est passée à travers le temps, comme on a pu voir dans Return of Bruce Wayne.
C'est-à-dire qu'il y a un effet Lost aussi, enfin, dans Spider-Man, autant Straczynski laisse planer le doute, il dit jamais vraiment que ses origines sont mystiques et pas scientifiques. C'est au lecteur de se faire sa propre idée, alors que là, dans Batman, au début, t'as le doute, à l'époque de Batman Rip et tout, tu ne sais rien, tu peux avoir tes propres théories, et au fur et à mesure de son run, comme dans Lost, il te dit, bah si, finalement, il y a vraiment eu des voyages temporels, il y a vraiment eu des histoires de mysticisme, de satanisme, le mec est immortel ou quasiment immortel, et tu pars totalement dans le fantastique, et là où c'était suggéré chez Straczynski, là c'est totalement assumé par Morrison.
Ouais, mais il n'y avait pas de voyage dans le temps à l'époque de Straczynski.
Pas du tout, oui, non, mais c'est pour ça que
on trouvait pas Spider-Man à différentes périodes du temps.
Un épisode avec Dormammu notamment où effectivement il voyageait dans le temps, mais c'était vraiment léger, enfin c'était juste le temps d'un épisode. Là c'est vraiment totalement au fait, il fait de Batman vraiment effectivement un truc totalement mystique, et c'est vrai que c'est problématique.
Ben oui, moi ça me gêne vraiment, c'est pas la conception de Batman telle qu'on la connaît. Alors je suis pas contre le fait que les personnages évoluent, moi c'est juste que cette évolution me plaît pas.
Voilà, ça va pas dans le bon sens.
Ben pour moi, oui, voilà, enfin c'est trahir, c'est peut-être un grand mot, enfin un mot un peu fort par rapport à ça, mais c'est pas l'esprit de Batman dans lequel il a été créé.
On en parlera. Oui, mais de toute façon, on en parlera dans 2 mois, mais pour moi, Batman Inc. trahit totalement le concept même de Batman.
Ouais, mais tu vois, je suis plus d'accord avec l'évolution due à Batman Inc. qu'avec cette évolution mystique, justement.
Ah bah moi, pas. Tu vois, à choisir, je dirais plutôt... Parce qu'il y a un côté quand même assez mystique, néanmoins... pas totalement assumé, mais il y a un petit côté mystique avec Gotham, le symbole de la chauve-souris, etc. Alors que bon bah le propos de Batman Inc, qu'on va pas le révéler, mais
pour mais moi c'est pas... Tu vois, à comparer, je préfère largement le thème. Alors, vous lirez ça dans quelques mois, auditeurs français, enfin en tout cas auditeurs qui suivaient uniquement la VF, bah justement avec l'arrivée d'Urban Comics, donc en février. Mais ce qu'essaye de faire Snyder par rapport à Gotham, et je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique et sensé, que oui. ce que fait Morrison sur le personnage de Bruce Wayne et sur l'entité Batman en
elle-même. Exactement, parce que Snyder fait à la manière d'un Straczynski un truc... où tu ne sais pas, c'est suggéré, c'est pas clairement dit, tu vois, c'est des sous-entendus.
Ça touche plus Gotham que ça touche le personnage de Bruce Wayne.
Ouais.
Et là, c'est là que c'est beaucoup plus intelligent, puisque Gotham étant une ville, voilà, les choses évoluent, etc. Voilà, il en fait un personnage. Avec ses évolutions, ses problèmes, etc. Mais ça paraît encore logique qu'une ville ait un côté assez, au-delà de justement la simple ville, là, quoi.
C'est une entité, quoi, Gotham.
Voilà. Alors que sur le personnage de Batman, justement, ça tombe un peu à plat. Enfin, ça, c'est mon avis. Je pense que Sam va nous maudire d'entendre tant
de
Sam.
Il va faire des cérémonies certaines. De toute façon, je suis sûr qu'il est dans le coup, Sam. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va, à mon avis, il va rester longtemps parce que on aura 90 ans, il en aura toujours 30. Il nous dira toujours oh, le dernier Batman, c'était bien. Bon, ce sera Morrison 3, 4, 5, peut-être, ses descendants.
C'est possible.
Mais bon, bref, toujours est-il que, voilà, beaucoup de réactions, beaucoup de choses à dire autour de ces épisodes, et faites-nous part d'ailleurs de vos avis. Hein.
Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Donnez-nous votre sentiment un petit peu sur ce changement apporté à Batman depuis ces derniers mois, qui trouve un certain point culminant, puisque c'est la fin de...
La révélation finale est quand même... assez incroyable et rappelle quand même encore une fois ce qu'avait fait Morrison sur les X-Men. Je vais pas en dire plus, mais
oui, c'est vrai.
En disant juste un tout petit peu plus si quand même pour préciser ma pensée, ça me rappelle cette conférence de presse menée par Xavier.
Mmh. Oui, voilà, complètement.
Où il révèle quelque chose qui est dans la même veine que ce que Bruce Wayne révèle là. De toute façon, la plupart des auditeurs auront, à mon avis, lu les épisodes avant qu'on en parle.
Et puis oui, bien sûr. Et puis bah, comme je disais, c'est la fin, c'est le point culminant de ce que Morrison a fait sur Batman et Robin. Il va partir sur autre chose, donc avec Batman Inc. Et surtout, c'est le départ de Grant Morrison sur les titres Batman actuels, puisqu'il va se consacrer juste à cette série Batman Inc. Donc on ne reverra plus sur Batman, on ne reverra plus sur Batman et Robin, qui vont changer de scénariste à partir des prochains mois. Et j'avouerai que c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Laisser la place à quelqu'un d'autre. Enfin, bah, on commence d'ailleurs tout de suite, puisque on a le Batman 703, publié là aussi dans ce Batman Universe numéro 9.
Avec un vieux de la vieille.
Ouais, voilà, scénarisé par Fabian Nicieza, avec Cliff Richards au dessin.
Alors,
c'est un peu plus léger.
C'est un peu plus léger, mais c'est pas inintéressant cet épisode. Et d'ailleurs, il m'a étonné à plus d'un titre, puisque déjà, du Fabian Nicieza, je m'attendais à un épisode assez lourd à lire, enfin assez long, tu vois, assez verbeux. Finalement, c'est assez fluide.
Ouais.
Il a adapté son style, enfin voilà, ça se lit au même titre qu'un épisode écrit par Morrison, quoi. C'est...
Ouais, c'est bien. La narration est quand même.
Ah bah plus simple. Bah, plus heureusement, simple. D'ailleurs.
L'épisode est pas excellent en soi.
Enfin, il y a une intrigue quand même, vachement intéressante, que malheureusement, enfin sur laquelle malheureusement on est complètement passé à côté en français.
Mais pour le moment, puisque c'est ça sera à suivre dans Bruce Wayne The Road Home.
Ah d'accord. Je me demandais où on allait avoir la suite. Mais oui, mais on les aura pas. Attends, je crois qu'on les aura pas. C'est pas dans
ce terme. Je ne sais pas si Panini ou si Urban Comics va les publier.
Non, ils annoncent, enfin Panini annonce qu'ils ne les publieront pas, et à mon avis, il y a peu de chances que Urban
D'accord,
Comics le fasse.
Bah, voilà, donc c'est cool. C'est-à-dire que là, on a le prologue à une histoire qu'on n'aura pas. C'est génial.
Non, mais surtout,
TPB, hein, les gens, TPB US.
Les prémices de cet épisode, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup Red Robin. Red Robin, on l'a pas du tout lu en français.
Non.
Si je comprends bien, donc Vicky Vale a fait son retour dans Red Robin, dans les pages de Red Robin, et puis elle a surtout des soupçons quant à l'identité de Red Robin et des autres Robins.
Exactement.
Et c'est pour ça, au fait, que Red Robin porte un masque maintenant.
Oui.
Et qu'il a fait semblant d'avoir une cicatrice. En fait, il ne l'a pas vraiment.
Non, voilà, c'est ça.
C'est pour ça qu'il a une tête normale. En fait, j'ai découvert tout ça à la lecture de cet épisode. Ce qui prouve qu'il n'est pas si mal écrit, puisque pour que je comprenne tout ça, mais juste avec cet épisode, c'est quand même déjà un tour de force.
Il faut savoir que Fabian Nicieza était scénariste de Red Robin.
Oui, voilà. Oui, ça je pense que je doutais un petit peu aussi.
Ça aide aussi.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est le grand retour de Vicky Vale dans les pages de Batman. Quoi.
On comprend quand même le ce qui s'est passé avant dans cet épisode. Et l'intrigue est quand même assez intéressante. Mais malheureusement, on n'en aura pas le...
L'intrigue est surtout un prétexte à lancer cette histoire. Puisque bon, grosso modo, Damian et Dick partent à la chasse d'un espèce de voleur et se retrouvent mêlés avec Vicky Vale là-dedans. Bref, l'histoire est sympathique. Ça permet surtout à Damian d'apprendre des choses sur son père. Des choses qu'il ne connaissait pas, un penchant de sa personnalité qu'il ne connaissait pas, le côté pas seulement stopper les criminels, mais aussi être juste. Ça, c'est assez intéressant.
Oui, alors Nicieza fait quand même un Damian assez sympa, hein, vraiment assez gentillé comparé à ce qu'il est d'habitude.
Oui, et moi je préfère. C'est un Damian petit con, mais qui apprend petit à petit le respect.
Il y a des moments de lucidité quand même, on va dire.
Oui, voilà, il apprend le respect de son père, de Dick, etc. Et c'est pas plus mal. Il garde toujours cet aspect petit con, mais au moins tu le sens respectueux. Et c'est un petit peu ça qui me gêne avec Damian, c'est que d'habitude il n'a aucun respect envers personne. Sauf peut-être si on voyait une petite phrase avec Morrison où il demandait à Bruce d'aller sauver Pennyworth. Donc on voit qu'il était attaché à Alfred, malgré tout ce qu'il le dit et la façon dont il lui parle.
Ouais.
Mais voilà, c'est vraiment très fugace. Là, au moins, c'est un peu plus insisté. Un peu plus
Alfred, c'est un peu son grand-père, quoi, finalement.
Oui, voilà, en quelque sorte. Une sorte de père de substitution. De même que Alfred était un père de substitution pour Bruce. Mais moi, je préfère un Damian comme ça. Qui reste petit con, mais avec une petite lueur d'espoir, plutôt que le Damian noir qu'on nous dépeint comme toujours, quoi. Bref, bon, donc un épisode pas trop mal, dommage qu'on n'aura pas la suite en français, donc comme je vous disais, hein, TPBUS, les gens, ça permettra de voir aussi un ensemble de la Bat Family. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est sorti en TPB, je suis en train de dire peut-être une grosse connerie, c'est peut-être jamais sorti en TPB, Rodo.
Mais je sais pas, en tout cas ils jugent pas ça suffisamment intéressant pour le sortir en français. Alors, ils nous font l'annonce de en décembre, dans le Batman Universe numéro 10, du coup, de Batman The Return, qui sera juste le one-shot dessiné par David Finch et scénarisé par Grant Morrison. Et puis, est-ce que c'est les 3 ou les 4 premiers épisodes de Batman Inc.? Je crois que c'est les 4 du coup. Donc ça
fait puisqu'il y aurait 5 à 8 chez Urban Comics, donc en logique.
Oui, voilà, donc ça devrait être ça, le compte est bon. Juste du Batman Inc. Alors, dans la postface, que j'ai relu 3 fois parce que je ne comprenais pas, enfin j'ai relu 3 fois ce passage, ils disent qu'ils vont publier les épisodes de Batman Inc. donc en décembre, et comme ils ont rédigé ça à l'époque sans savoir qu'ils allaient plus avoir les droits de DC, ils disent néanmoins, désolé de vous apprendre, mais à partir de maintenant, il y aura... plus Batman Inc. ni Batman et Robin dans ces pages, il y aura juste la série Batman de Tony Daniel et je sais plus d'ailleurs ce qu'ils mettent d'autres. Mais alors
Detective Comics peut-être.
Et Detective Comics, oui, voilà, ça doit être ça. Donc du coup, ou bien alors c'est l'inverse, Batman et Robin à la place de Detective Comics. Bref, je sais pas. En tout cas, ils annoncent qu'il y aura dans 2 mois Batman Inc. et que à partir de maintenant, il y aura plus Batman Inc. Enfin, qu'il n'y aura pas la suite du travail de Morrison. Donc c'est totalement contradictoire, on comprend rien. Voilà. Mais enfin, toujours est-il qu'on n'aura plus à se poser la question, puisqu'il n'y a plus qu'un numéro de Batman Universe.
Voilà, ouais. C'est le problème d'écrire des choses 6 mois auparavant.
Ouais. C'est-à-dire que dans le dernier numéro, ils pourront enfin dire, bah finalement, écoutez, on n'a plus les droits, c'est le dernier numéro, ciao tout le monde.
Peut-être qu'ils réécriront des éditos plus d'actualité, on va dire.
Ou bien peut-être qu'ils nous feront une présentation à la CEMIC, tu sais, à l'époque, à la Star Wars.
Ouais.
Une page se tourne. Je sais plus comment ils avaient
terrible.
Ça.
C'était terrible.
C'était terrible, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Enfin, il n'y avait pas d'Internet. C'était vraiment les balbutiements. Moi, j'avais absolument pas accès à ça. Et le choc, quoi. Vraiment le choc. Enfin bon, autre temps, autre mœurs. Et du coup, là, je pense que tout le monde est au courant.
Oui, bah oui, quand même.
Mais surtout si vous nous écoutez. Voilà.
Allez, on va passer à la suite. On a passé pas mal de temps sur Batman Universe. Bon, finalement, Batman Universe...
Ah bah quand même.
Qui vaut pour l'annonce.
Qui vaut le détour. Ah non, quand même, qui vaut le détour. Qui est essentiel pour la suite.
Ouais, voilà. Mais en termes d'intérêt, après, ça dépend des goûts, quoi. On va passer justement à la suite. Nous, ça sera complètement autre chose. Puisqu'on va prendre quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus coloré, avec le DC Heroes numéro 5. Ce sont les 6 premiers épisodes de la série Flash. On en parlait en intro lors du passage sur Urban Comics. Donc, c'est scénarisé par Jeff Jones au dessin Francis Manapul. Le premier arc de ce relaunch de Flash avec Barry Allen sous le costume. Alors, moi, j'aime beaucoup le dessin.
Ouais.
On va commencer par ça. L'histoire m'avait laissé un assez bon goût. Je l'ai pas relu, hein. Je travaille là sur les souvenirs.
Ouais, pour l'avoir relu d'un bloc, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette histoire. Et je l'ai trouvé bien plus fouillé, bien plus travaillé qu'en la lisant comme ça un petit peu par morceaux. Non, franchement, c'est très bon. Je trouve que c'est du très bon Geoff Johns. Et en plus, très compréhensible. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour une histoire compliquée quand même, parce qu'on parle de voyage dans le temps, de versions alternatives de personnages, mais Geoff Johns arrive à nous raconter un truc compliqué simplement.
Ben c'est la force de Geoff Johns, hein, justement.
Alors que Morrison arrive à nous raconter des trucs simples d'une manière super compliquée.
Ouais. Bon, on va parler un petit peu de l'histoire de ce premier arc.
Alors, Minority Report. Reportez-vous à Minority Report.
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'une Flash est de retour, commence à vaquer ses occupations et débarque une...
Et d'ailleurs, on peut le dire au début, j'ai quand même beaucoup souri. C'est assez drôle.
Mais c'est très léger, on revient au Barry Allen classique quoi, du premier volume de Flash, hein, qui a duré des années, jusqu'au numéro 350. Mm-hmm. Barry Allen était un personnage, en tout cas au début, très léger. Il s'est noirci petit à petit. Mais voilà, c'est un Barry Allen souriant, pour qui tout va bien. Voilà, magnifique quoi.
D'ailleurs, jusqu'à ce que débarque... On apprend dans l'épisode, je te fais juste une petite parenthèse, qui mesure 1m78, ce qui me semble pas si grand que ça, parce que je mesure 1m79, et je l'imaginais plus grand que moi. Voilà, c'était passionnant.
Mais en même temps, c'est logique pour un Flash, un mec qui court vite, qui soit plus petit. Moi, ça me pose pas de problème.
Plus petit mais véloce.
Oui, voilà. Donc, tout va bien, jusqu'à ce que débarque une espèce de police du futur, qui vient l'arrêter pour un crime qu'il va commettre.
Oui, ou qu'il, un jour. Qu'il est censé commettre, qu'il n'a pas encore commis. Et cette police du futur, surtout, c'est une version futuriste des Lascar.
Oui, ce sont les descendants des Rogues. Et
alors là, voilà. Ils ont été traduits par les Renégats.
Ils s'appelaient The Renegades en anglais. Ils n'avaient pas le même nom que les Rogues. Mais c'était assez intéressant, justement, d'avoir des versions alternatives, en quelque sorte, de ces Rogues. Et qui, finalement, sont leurs enfants, ceux qui ont récupéré un petit peu le matos qu'ils utilisent.
Au 25e siècle, quand même.
Oui.
Oui. C'est les Rogues ont la vie dure. Hein.
Donc voilà, il va devoir essayer de laver son nom tout en essayant d'empêcher ce crime et essayer de comprendre quel est ce crime aussi.
Oui. Donc, oui, non, mais il y a
sur la planche quoi.
Il y a énormément de choses, il y a énormément de retournements de situation. Justement, c'est ça qui était vachement bien foutu, c'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre, à chaque fin d'épisode, tu te dis oula, ah oui, d'accord. Ah, et puis après tu te dis ah oui d'accord ok ah mais non mais au fait c'est ça et non franchement c'est une très bonne lecture, tu lis ça d'une traite parce que t'es accroché du début à la fin. J'ai vraiment aimé cet arc et encore plus en lisant, en le relisant comme ça en one shot. Il y a juste un truc qui m'a semblé un peu ridicule quand même. Alors je sais pas si Flash a toujours su faire ça, mais au début il y a un immeuble qui s'écroule et en 30 secondes il arrive à reconstruire un immeuble entier.
Ah, il est super rapide.
Ouais, mais, je veux dire, encore Superman qui construise un immeuble entier en 30 secondes, je veux bien, mais Flash, c'est-à-dire que ça demande quand même... En fait, c'est le problème de la super force. Je pense que même à toute vitesse, sa force n'est pas suffisante, si tu veux, pour construire un truc aussi vite. Même si t'as la connaissance, parce que au fait, il dit, oui, j'ai la connaissance pour construire, oui, mais d'accord, mais faut quand même soulever de la du béton, des trucs, enfin, je veux dire, c'est... Il place des poutrelles, c'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive à faire.
À la rigueur, il fait du vent pour les faire déplacer, quoi.
Ouais. Je sais pas, enfin, tu vois, je me suis dit, en fait, faudrait vraiment étudier ça avec des scientifiques, tu vois, pour savoir si, bon, bien sûr, avec un zeste de SF, hein, si c'est jouable, au fait.
En même temps, faut se dire qu'il combat des super vilains, il court très vite, etc., donc... Il a quand même, il est en très très bonne condition physique, supérieure à la normale en tout cas, au-delà de ses pouvoirs, je veux dire, puisque il est constamment obligé de s'entraîner, voilà, il est capable avec la vitesse d'arriver à décoller des patates monstrueuses. Bon, maintenant qu'il soulève des poutrelles, c'est peut-être un peu abusé, mais non, qu'il soit plus fort que la normale, moi ça me paraît logique.
Qu'il construise une maison à toute vitesse, ok, mais par exemple, il fait de la peinture à toute vitesse, mais pourquoi la peinture sécherait-elle à toute vitesse?
Parce qu'il fait du vent.
Oui.
Ouais, c'est ridicule. Ça, c'est ridicule, je sais.
Non, enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Alors, je sais bien que normalement, on se pose pas ces questions, puisqu'on est en, comment dire, les Américains, ils sont disbelief, je sais pas comment dire. Enfin, t'as une suspension de l'esprit, quoi.
Oui.
Ouais, t'as vu.
Non, mais voilà, c'est...
Normalement, effectivement, tu ne te poses pas ce genre de questions, mais moi, j'avoue que là, sur le moment, je me suis posé un paquet de questions en me disant, mais quand même.
Et puis merde, on a envie de faire chier aujourd'hui, c'est tout.
Oui, voilà, exactement. On se pose pas assez de questions inutiles, il en faut plus.
Enfin, voilà. En tout cas, ça vaut vraiment l'achat.
Oui, ça vaut le détour.
Bon. Un arc en 6 pour 5,60€.
Pour 5,60€, si je me gourre pas. Donc c'est pareil, un très très bon achat, très très bonne affaire. Ça aurait pu sortir en 100%, c'est sorti en kiosque, je veux dire, allez-y.
Ouais, et puis bon, bah, là vous y gagnerez par rapport au TPB US, quoi, financièrement parlant en tout cas.
Et très bonne histoire.
Ce qui est la cerise sur le gâteau. Allez, on va passer à la suite, on va attaquer la librairie pure et dure maintenant. On va rester dans les personnages solitaires, puisqu'on va parler du Punisher Max numéro 2, qui devait sortir le mois dernier. Et malheureusement, qui a eu un petit mois de retard, c'est scénarisé par Jason Aaron, Steve Dillon au dessin, et ça contient les épisodes 6 à 11 de cette série Punisher Max. Dans ce nouvel arc, le Kingpin a décidé d'engager donc Bullseye pour désinguer le Punisher, puisque le Punisher le fait chier, hein, tout simplement.
Oui, mais il embête beaucoup de monde, mais c'est des méchants.
Et on va avoir un Bullseye, très différent du Bullseye qu'on a dans le Marvel Universe classique, hein, dans cet univers Max. Un Bullseye très beaucoup plus sordide, mais aussi beaucoup plus fin psychologue qu'il l'est dans le Marvel Universe classique.
Ouais, alors après je dirais ça dépend peut-être des arcs, parce qu'il y a peut-être des arcs dans lesquels son profil psychologique est bien écrit, bien élaboré. Bon, j'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est vrai que là, Jason Aaron est parvenu à nous en faire vraiment un personnage profond.
Ah ben ouais, il est très flippant, et en même temps, une fois encore, dans le premier arc, on était presque plus du point de vue du Kingpin que du point de vue du Punisher, et là encore, on est plus du point de vue de Bullseye que du point de vue du Punisher, encore une fois, et ça rend la narration et l'histoire en elle-même intéressante et différente de ce que l'on connaît.
Ce qui est effrayant, c'est que pour un gros cinglé, je dirais pas qu'on épouse sa cause, hein, loin de là, mais on le comprend.
Ouais, on arrive
pourquoi
à...
Pourquoi il est comme ça, en fait.
On arrive à le suivre dans ses délires, en fait.
Totalement.
Parce que finalement, le mec tue et c'est tout simplement un gros délire pour lui. C'est un job, mais aussi il a du fun à faire ça. Et le fun, pour lui, revient à se mettre dans la tête de la personne qui va tuer. C'est un espèce de profiler, mais profiler pour arrêter les serial killers. C'est un profiler pour être un serial killer. C'est ça qui est terrible.
Oui. C'est tout un concept, d'ailleurs. Un métier d'avenir.
Très très bonne idée. Enfin, je veux dire, là, Jason Aaron est très très bon. Il est aussi bon, à un niveau différent, bien sûr, mais il est aussi bon qu'il l'est sur Sculpt, comparé à ce qu'il est sur la série Wolverine régulière, par exemple.
Ouais. Oui. Je dirais que la particularité de ce Punisher Max, déjà, bon, bah, c'est que, contrairement au Punisher Max de Garth Ennis, hormis Nick Fury par moment, n'utilisait pas de personnage propre à l'univers classique Marvel. Là, on a quand même un bon paquet, finalement, à chaque fois, de personnages classiques qui connaissent une version Max.
Ouais.
Et bah, je trouve le concept, même si c'est pas nouveau, hein, on a ça dans les versions Ultimate, etc., je trouve ça quand même vachement intéressant à chaque fois de voir qu'est-ce que ça va donner, et à chaque fois, Jason Aaron arrive à en faire des personnages vachement intéressants.
Non, mais là, c'est vrai que sur cette série, il est vraiment très très bon.
Très inspiré, mais de toute façon, il est bien meilleur sur du Dark, sur du... En fait, le problème de Wolverine, par exemple, c'est qu'il peut pas vraiment être aussi violent que sur le Punisher, parce que Wolverine, c'est un truc lu par un grand nombre de lecteurs, ça peut pas être non plus totalement aussi gore, aussi déjanté, c'est pas possible, à moins que ce soit une version Max. Et voilà, du coup, il s'empêche sans doute des choses qui font que c'est pas aussi bon.
C'est marrant d'ailleurs qu'on n'ait jamais eu Wolverine Max.
Oui.
On a eu des séries qui se passaient, je crois, dans l'univers Max, mais
ou dans l'univers noir, on a eu un Wolverine noir, mais c'est vrai que ça manque, mais en même temps, il y a tellement de Wolverine.
Ouais, mais c'est bizarre qu'ils aient pas poussé le filon jusque là.
Ouais, on a bien eu un Wolverine atroce qui s'appelait d'ailleurs, je crois que la série est annulée.
The Best Series. Non, la série est annulée. Oui, non. La série s'arrête au numéro 12. Mais elle reprendra pour un volume 2.
C'est pas vrai.
Je te jure.
C'est écrit par qui?
Je ne sais plus.
Par qui? Par Picard. Par arrêter les pubs qui me en plus.
Je ne sais plus, mais voilà, je sais que ça reprend pour un volume 2.
D'accord.
C'est terrible.
Ah oui, oui, c'est terrible. Ils auraient mieux fait, effectivement, là, pour le coup, de faire une version Max, par exemple.
Mais je crois que The Best Diaries était sorti en français, hein, déjà. Les premiers épisodes.
Oui, et ben, où vont sortir. Je ne sais pas si c'est sorti déjà.
Je ne sais plus. Bon, ça n'a aucun intérêt, de toute façon. Là, il y a une chose très intéressante, je trouve, dans ce Punisher Max. Enfin, en tout cas, dans
je dirais même qu'il y a des choses très intéressantes.
Oui, mais particulièrement la conclusion de Bullseye concernant l'origine du Punisher et la mort de sa famille.
Oui, oui, oui.
Qui est quelque chose de complètement différent et finalement peut-être pas si illogique que ça.
Ouais, mais c'est-à-dire que il cerne bien le Punisher, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que c'est toujours les plus cinglés qui arrivent à cerner le Punisher, ce qui tenterait à prouver que le Punisher est quand même bien barré.
Bah, de toute façon, oui, enfin, il est complètement taré, quoi.
Mais je veux dire, ce qui est marrant, c'est que c'est les plus fous qui sont les plus lucides dans cette série.
Oui, mais c'est vrai qu'il est bien allumé quand même. Enfin, je veux dire, quand on voit dans l'état dans lequel il se met pour essayer de comprendre le Punisher, mais s'infliger ça à soi-même, c'est quand même... Faut quand même ne pas s'aimer, je pense. Enfin bref, voilà.
Sauf que tout ça, il y a le Caïd. On n'a pas beaucoup parlé.
Qui a un rôle presque figuratif, hein, comparé au rôle qu'il avait dans le premier épisode, enfin dans le premier arc, pardon. Mais qui est bien présent, hein, parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'histoire.
C'est peut-être le plus normal, d'ailleurs, finalement. Alors que dans le premier arc, il semblait totalement fou.
Oui. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est comment Jason Aaron arrive à nous rendre les personnages salauds intéressants, les personnages censés être les gentils, finalement presque pas débectables, mais en tout cas anecdotiques.
Oh, il fallait le sortir débectable, attends je le note. Maître Capello, si tu nous entends.
Disons qu'il les rend assez anecdotiques et presque limite plat, sans charisme, sans saveur. Franchement, le Punisher est loin d'être le héros de cette série, même si elle porte son nom. C'est ça qui est assez marrant. Et c'est toute la complexité, je pense, de cette série, tout le paradoxe, finalement.
Ouais. Comment
rebondir là-dessus ?
Voilà, c'est vraiment un volume à prendre, à saisir de toute urgence dans toutes vos bonnes librairies et à dévorer à condition que vous soyez quand même un lecteur averti.
Ouais, c'est quand même assez violent.
Adulte et vacciné, comme je dis souvent, parce que autant on met toujours une espèce d'interdiction moins de 16 ans sur Sculpt, autant je trouve que il y a des séries comme le Punisher qui sont tout autant violentes, même graphiquement, c'est putain fou.
Oui, non mais c'est clair. Mais c'est tout comme Sculpt, hein, justement, du même auteur, hein, bien sûr. Les personnages les plus intéressants de l'histoire sont finalement les salauds. Et pas le soi-disant gentil.
Parce ouais, enfin quoi que dans Sculpt, comme je te disais l'autre fois, il y avait ce petit indien là qui.
Ouais, mais
qui m'intéresse particulièrement parce que je trouvais son histoire intéressante.
Dashiell est censé être le héros de l'histoire finalement de Sculpt, et c'est le mec peut-être le plus plat de l'histoire, à part un petit sursaut dans un arc, mais pour le moment il est pas super intéressant comme personnage. Alors que Red Crow.
Ah oui.
Ben voilà, ces personnages-là sont beaucoup plus intéressants. Très bon Jason Aaron sur le noir, sur le... Comme je disais, en fait, pour moi, Jason Aaron, il est bon. C'est ce qu'on en parlait, je crois, dans un Comics Weekly, hein, quand tu avais fait le Punisher Max il y a de ça quelques semaines. Mm-hmm. Jason Aaron est très bon quand il y a des flingues.
Oui, quand il y a des flingues, quand il y a de la...
Parce que toutes les séries où il n'y a pas de flingues...
Parce que c'est toujours très, très sombre, très violent, très adulte. En fait, voilà, il est fait pour scénariser des choses adultes. Et c'est pour ça que l'univers un peu trop chatoyant des super-héros ne lui correspond pas. Oui. Quand il est sur des chemins, on l'a pas encore eu en français, mais juste sans spoiler, il va écrire un truc qui s'appelle Schisme sur X-Men. Voilà, c'est pas bon.
Ouais. Non mais je suis d'accord.
Voilà, c'est pas son truc. Et c'est problème parce qu'en plus il fait partie des fameux 5 architectes dont on parlait tout à l'heure. Bon voilà, je suis pas certain qu'il soit à sa place.
Reste une chose intéressante aussi, hein, dans cet arc, le fait que la police a décidé de partir en croisade contre le Punisher et en fait l'ennemi public numéro 1.
Ouais, il y a un côté Dark Knight à la fin. J'ai hâte de lire la suite.
Ce qui, oui, voilà, justement, va causer quelques problèmes au Punisher.
C'est vraiment
quelques
là, c'est...
problèmes, c'est.
Je sais pas si c'est comme toi, mais c'est l'une des rares séries Marvel actuelles en français où il me tarde de lire la suite. Quand même.
Exactement, pareil. C'est marrant parce que quand on avait fait le premier numéro à l'époque, tu m'as dit ouais, il y a ça qui sort ce mois-ci, faudrait qu'on me traite et tout, et je t'avais dit bon, Punisher, moi je suis pas un grand fan, tu le sais, voilà quoi. Bon, je vais le lire quand même, mais
Jason Aaron, puisque
oui, en plus. Et franchement, merci, Merci, parce que j'adore cette série, et pourtant je suis vraiment loin d'être un fan du Punisher, et je suis pas non plus un super grand fan de Jason Aaron, en tout cas dans l'univers Marvel, donc non, franchement merci, parce que c'est une putain de bonne découverte, et le premier volume m'avait soufflé, le deuxième est aussi bon, voire même meilleur. Non, vraiment, une lecture à ne pas rater, quoi. Pour peu qu'on soit adulte et qu'on aime les choses un petit peu rentre-dedans, quoi. Mmh.
Mais vous êtes
un
de
truc
plus
avec
en
des
plus
balls,
nombreux,
quoi.
Vous êtes de plus en plus nombreux, de toute façon, à me dire merci.
Ok, allez, on va passer à la suite, on va rester dans le glauque et le torturé avec la sortie d'American Vampire numéro 2. Mmh. Le tome 2, donc, qui contient les épisodes 6 à 11, là encore une fois, hein, pareil, les mêmes numéros que dans le Punisher Max. C'est écrit par Scott Snyder, dessiné par Raphaël Albuquerque pour le premier arc, hein, c'est-à-dire les épisodes 6 à 9.
Ouais.
Et le deuxième arc, puisqu'il y a un deuxième arc en deux parties, les épisodes 10 à 11, qui sont dessinés par Matteo Santoluco. Cette fois-ci, on n'est plus du tout à la même époque. On se retrouve à Las Vegas en 1936. On va découvrir un flic qui s'appelle Cashel, dont j'ai pas noté le nom de famille d'ailleurs.
Et d'ailleurs, très bonne transition par rapport à ce qu'on disait juste avant, puisque cet arc m'a quand même pas mal fait penser à Sculpt.
Ah oui.
Bah oui, le côté... déjà, on voit un petit peu l'évolution de Las Vegas, le côté casino, etc. Mm-hmm. Bon alors, on est bien plus dans le fantastique, certes.
Ah oui.
Totalement. Mais il y a un petit côté le Sculpt, et puis il y a une enquête policière, il y a une ambiance quand même à la Sculpt.
Ouais. En fait, on est à l'époque où le barrage de Las Vegas est en train d'être construit.
Voilà.
Le fameux grand barrage qui va permettre d'amener plein d'eau à la ville, chose dont elle manque énormément, puisque Las Vegas est construite en plein désert, et qui va permettre donc l'expansion de la ville. Et on se retrouve donc avec ce Cashel qui va devoir enquêter sur un meurtre, alors que c'est son jour de congé. Nuance, hein, c'est quand même bien important de le préciser, parce que le pauvre, il lui arrive plein de merde alors qu'il devrait même pas être en service.
Mais c'est comme toi.
Ce qui me rappelle Clerks à chaque fois. Hein,
Clerks.
De Kevin Smith. Oui. Justement, tout ce qui arrive alors que ce mec-là n'était même pas censé être là.
Mais c'est comme toi. C'est ce qui t'arrive tous les jours. Chaque fois quand t'es pas en service, regarde ce qui t'arrive. Oui, parce que Steve est en service.
Oui, je suis en service. En service commandé.
Et
par sa majesté.
Non, mais ce qui est intéressant dans cette série... Alors, il y a un truc qui m'a intéressé déjà, c'est que il faut signaler aussi que Stephen King, il me semble, hein, corrige-moi si je me trompe, n'est plus co-scénariste.
Non, il était là
sur le lancement.
Sur le premier arc, oui. Il écrivait l'histoire parallèle qui finalement se rejoignait à la fin.
Et j'ai trouvé que Scott Snyder, j'ai trouvé plus intéressant ce second volume, en tout cas cet arc-là, que le premier.
Bah, déjà par sa narration simplifiée, puisqu'on n'a pas deux histoires.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'au début, on avait deux histoires dans le premier tome.
Ça faisait un peu lourd.
Et à chaque fois, il fallait... Oui, déjà, c'était beaucoup plus long à lire. Et puis à chaque fois, on se disait, bon, oui, ok, quel est l'intérêt de cette deuxième histoire? Est-ce qu'il va y avoir un lien entre les deux ou pas? Bon, finalement, il s'avère que oui, mais t'as une certaine gymnastique cérébrale à faire à chaque fois que tu lis un nouvel épisode, où tu dois repartir sur l'autre histoire et tu dois pas confondre les deux. C'est pas toujours évident. Là,
de toute façon, il est certain que le but non avoué, c'était d'avoir le nom de Stephen King, quand même. C'est ça qui lance une série... Je veux dire,
oui.
C'est quand même la grande classe, quoi.
C'est fort probable.
Un truc de vampire avec le nom de Stephen King dessus, forcément, ça va faire acheter beaucoup plus de monde que si c'était Scott Snyder qui portait seul son projet. Bon, mais
dans cet arc, ce qui va se passer, c'est que le barrage est construit par un consortium de 4 grosses entreprises, dont un des dirigeants va se faire assassiner.
Les 4 familles Wayne.
Assez bizarre, ouais.
Non, mais c'est marrant, hein, parce que oui, c'est le même scénariste en plus.
C'est un peu ça, oui. Le premier va se faire assassiner, enfin un des 4 en tout cas va se faire assassiner d'une façon très bizarre, parce qu'on va le retrouver drainé de tous ses fluides. Bon, nous lecteurs, on le voit, on voit très bien ce qui se passe, mais on essaie de se mettre un petit peu à la place de ce détective. Et voilà, il va avoir du renfort par le FBI, qui ne sont peut-être pas des gens qui sont vraiment ce qu'ils prétendent être. On va retrouver des personnages qu'on a vus dans le premier épisode, enfin dans le premier arc. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque l'époque change, mais les vampires étant immortels, en tout cas vieillissant pas, on peut les retrouver à différentes époques. Donc on retrouve le fameux personnage du premier tome, hein, le fameux American Vampire, Sweet. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, on va retrouver Pearl aussi. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que moi, le début de l'arc, je me disais, bon ok, mais on va repartir sur quoi? C'était d'ailleurs ma crainte à la fin de ce premier arc, de ce premier tome. Je me disais, mais sur quoi va-t-on partir ensuite?
Mais je t'avoue, j'ai eu du mal au début, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sorti en français que je me souvenais même plus des personnages.
Mais moi c'est pareil. Et puis comme cette histoire, inconsciemment en fait, l'histoire étant terminée à la fin du premier arc, et puis ça pouvait s'arrêter là, je pense que inconsciemment on doit se dire, ça, on, on, c'est on oublie en fait la fin, on oublie un peu les personnages, on se rappelle qu'on avait bien aimé ou qu'on n'avait pas aimé, hein, suivant les goûts, mais on n'a plus forcément tous les éléments en tête. Alors déjà du fait qu'il y a le délai, et puis que bah ce sentiment d'accomplissement à la fin, quoi. Voilà, on oublie. Et là, comme on repart sur totalement autre chose, on se dit mais putain, il y avait ces personnages-là, je sais plus. Puis petit à petit, ça revient en fait. Au fil de la lecture, ça revient tout seul.
Ouais.
Et bon, il y avait quelques éléments que j'avais oubliés, comme par exemple la façon de blesser ces American Vampire. Ouais. J'avais totalement oublié comment on pouvait les tuer. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il a intégré cette notion de différentes castes de vampires. Différentes dynasties avec différents pouvoirs en fonction de leur origine, de qui les a mordus, etc., de ce qu'ils ont dans leur sang, machin. C'est super intéressant et ça devient super fouillé. Il peut faire durer en fait cette série autant de temps qu'il veut, il n'y a pas de souci. Avec tout ce qu'il a mis en place là à travers ses deux premiers arcs, il est pas peut-être parti pour une soixantaine d'épisodes sans aucun emmerdement.
Ouais, tout à fait. Et non, mais il y a aussi le côté comment dire, déstructuration des États-Unis, parce que voilà, enfin là il nous montre une ville qui passe de l'état, enfin il y a rien quoi au début, hein, c'est vraiment le désert, et petit à petit bon bah ça se construit, mais en même temps on sent que ce qui se construit là c'est pas forcément très c'est pas tout blanc quoi, c'est un petit peu l'empire du jeu, du vice,
dans tous les sens du terme d'ailleurs,
dans tous les sens du terme, et il y a ce côté très sombre, très dark, très critique au fait de l'histoire de l'Amérique à chaque fois.
Mais c'est marrant comme Scott Snyder est très attiré vers le passé en fait. Quand on regarde, vous l'avez pas encore, mais on l'aura sûrement en français, hein, la mini-série Gates of Gotham. Enfin, j'espère en tout cas qu'on l'aura, en tout cas par Urban Comics. Hein. Voilà, on l'a vu avec le premier arc où il était vraiment dans le passé. Là, il est toujours dans les années 30. Il a avancé un petit peu la période, mais il est toujours dans les années 30. Et Scott Snyder est très très bon quand il s'agit de faire des choses sur le passé. Bon, il est bon dans le présent aussi, hein, parce que ses détectives comics sont carrément excellents. Mais voilà, on sent qu'il maîtrise le côté historique.
Oui, puis il aime bien, faire de la ville une espèce de personnage, une espèce d'entité.
Mmh, complètement.
Là, on retrouve toujours ce thème-là. Il est très présent en fait à travers American Vampire. Il y avait déjà ça d'ailleurs dans le premier.
Ouais.
Et
oui, parce que voilà. C'était Hollywood, c'était cette espèce de
c'était Hollywood, et puis il y avait cette vieille ville dans le désert aussi, je me rappelle plus du nom, qu'on voyait dans l'époque la plus ancienne.
Ouais, mais c'était la partie plus écrite par Stephen King ça.
Mm. Enfin oui, bon enfin à mon avis, il a aussi collaboré dessus.
Il a scénarisé, ouais. Bien sûr.
Enfin donc voilà, c'est une très bonne lecture, une très bonne surprise.
Très, très bonne lecture, oui. Ouais.
Alors, et il y avait aussi cette autre partie.
Ouais, le deuxième petit arc, hein, en deux épisodes, va se concentrer plus sur Pearl, hein, que l'on voit passer dans le premier arc, et là on voit plus se concentrer sur elle, et finalement voir que ses problèmes ne sont pas forcément terminés comme elle le croyait. C'est super intéressant, c'est vraiment très très bon. On se rend compte, ben, bien sûr, c'est vrai qu'il y a des vampires, mais il n'y a pas que des vampires. Hein. On se rend compte qu'il y a aussi d'autres forces qui se cachent autant que les vampires. Et voilà, non, c'est vraiment super excellent. Je vois pas comment mieux le vendre, ce truc.
Écoute, là, je pense qu'on l'a très très bien vendu, et surtout, j'ai encore une fois, j'ai été plus intrigué, plus emmené par cet épisode, enfin par ce volume, que par le précédent, par le premier. Enfin voilà, c'est sur la bonne direction.
Il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre dedans, mais dès le deuxième épisode, c'est reparti, quoi.
Donc du bon Snyder.
Du très bon Snyder. Très
ça
très
fait
bon.
Partie des scénaristes sur lesquels il faut compter en ce moment.
Exactement, ouais.
Et surtout, contrairement à Aaron, il arrive à faire du aussi bon sur du super-héros que sur un truc un peu plus particulier.
Ouais. Là encore, le truc, c'est que Snyder, il est plus sur du super-héros glauque, quoi.
Ouais, mais bon, Wolverine...
Tu vois, je verrais bien... J'aimerais bien un essai d'Aaron sur Batman. Voir ce que le mec est capable de donner.
Ouais. Bon, c'est pas prêt d'arriver pour le moment.
Non, puisqu'il doit être en exclu chez Marvel, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant le laisser faire avec une petite mini-série, voir ce qu'il est capable de faire. Bon, on verra bien de toute façon si un jour ça se concrétise. Allez, on va faire quelques petits express, hein, à la manière des comics des comics weekly, des choses que moi j'ai lues que tu n'as pas lues, et inversement. Et on va rester dans le thème du vampire avec ce qu'ils ont appelé en français chez Delcourt Lord Baltimore, qui s'appelle en anglais Baltimore the Plague Ships. C'est une mini-série en 5 parties, mais une suite de mini-séries, puisqu'il va y avoir d'autres choses ensuite. C'est écrit par Mike Mignola et Christopher Golden. Le dessin sont de Ben Stenbeck. Mm-hmm. Alors, c'est une espèce d'adaptation et en même temps de suite d'un roman, ou d'une série de romans, j'ai pas très bien compris, j'ai eu peu de temps pour faire des recherches. En même temps, il y a déjà eu des espèces de graphic novels de sortie. qui s'appelait Baltimore et avec un nom hyper à rallonge que je n'ai pas noté. Donc
si je t'attrape, je te mords.
qui était donc écrit.
C'est un petit peu le principe.
Ou c'est un peu ça. Qui était écrit par Christopher Golden et Mike Mignola. C'était une espèce de roman graphique puisqu'il y avait pas mal d'illustrations à l'intérieur.
D'accord.
Apparemment, ce que j'ai compris en tout cas. Bon, là, le personnage de Lord Baltimore. Alors déjà, c'est ça se passe en 1916. La Première Guerre mondiale s'est arrêtée à cause des vampires, puisque les vampires ont décidé de partir en chasse de l'humanité, finalement. Et ce Lord Baltimore, qui faisait la guerre, justement, pendant la Première Guerre mondiale, va lui partir en chasse de tous ces vampires et essayer de les exterminer.
Donc c'est-à-dire l'existence des vampires est connue.
Oui, bah oui, là tout le monde le sait, oui, puisque les vampires ont décidé de tout pourrir en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils passent dans les villes, ils tuent les
gens. Non seulement il y a la guerre, mais en plus il y a les vampires en même temps.
Bah la guerre c'est arrêté en fait.
Oui parce d'accord, maintenant tout le monde fait cause commune contre les vampires.
Ouais, enfin ce qui reste, parce qu'il reste pas grand chose malheureusement.
D'accord.
Les vampires ont décidé de se nourrir sur les humains vivants, et en même temps apportent une espèce de peste. En quelque sorte, qui les gens soit meurent, soit deviennent des vampires. C'est assez étrange.
D'accord.
Il y a une ambiance très glauque. C'est du Mike Mignola. Hein. Donc on a rien à voir avec Hellboy, rien à voir avec BPRD. On est complètement dans un autre univers, mais on sent cette ambiance. Finalement, on est en terrain connu. Finalement, terrain connu, hein. Pas terrain inconnu. Et c'est super intéressant. Donc ce Lord Baltimore, c'est un mec vraiment, c'est le bourru de base quoi. C'est le gars qui a plus de famille, qui a plus rien et qui a dédié sa vie à ça, à détruire les vampires. Et il va rencontrer une fille qui va l'aider à poursuivre son but et à tuer un vampire en particulier. On va apprendre tout ça dans la mini-série. C'est super bon. Mais alors par contre, faut savoir que c'est le début. Comme je disais, c'est une suite de mini-série, c'est la première. Et donc il est pas question d'avoir la fin là-dedans. C'est-à-dire qu'on a la fin d'une certaine intrigue, mais on sait très bien que ça va continuer. Vous attendez pas à ce qu'il chope le mec à la fin.
D'accord.
Non, il va continuer de le poursuivre. Donc la deuxième mini-série, il est en train de sortir aux USA, on en est rendu au numéro 3. Le numéro 4 devrait pas tarder. Franchement, c'est très très bon. Si on aime l'ambiance un petit peu Hellboy, BPRD, tout ça, l'univers de Mike Mignola, c'est clair, on va aimer. Après, pour les autres, ça peut être une très bonne découverte.
Mais par contre, pas du tout de place à l'humour. Hein. C'est très sérieux.
Ouais, c'est vraiment sérieux. Il n'y a pas d'humour. Même pas vraiment d'humour noir. Hein. C'est vraiment
Alors que Hellboy est quand même bien plus fun.
Oui, là non.
C'est perdu, je sais pas. Je m'y suis jamais intéressé, donc...
Non, mais là, c'est vraiment du rentre-dedans, quoi. C'est du rentre-dedans. Bon, c'est bien écrit. C'est nickel. Franchement... Très très bonne lecture. Moi j'ai plongé dedans du début jusqu'à la fin, j'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'ai lu le dernier épisode et voilà, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre?
Donc rappelons, c'est chez Delcourt.
C'est chez Delcourt, ouais.
Ouais. Là quand même la sortie du mois chez Delcourt peut-être.
Ouais.
Pour toi.
Pour moi, ouais. Pour moi, ouais, c'est la sortie du mois chez Delcourt.
C'est ton pic du mois, on va dire.
Un très très bon ajout à leur catalogue et j'espère qu'ils publieront la suite relativement rapidement, même si la mini-série n'étant pas encore terminée aux USA, de toute façon, il va falloir attendre, à mon avis. Donc non, foncez dessus. Excellent.
Alors, tu as parlé de Delcourt, moi je vais parler d'Emmanuel Proust, puisque j'ai lu le second volume de Starborn. Alors Starborn, rappelle-toi, c'était l'une des trois séries lancées par Stan Lee. Sur une idée de Stan Lee,
ouais, en sur fait. un concept
de Stan Lee, exactement, avec divers scénaristes. Alors on avait beaucoup parlé de Soldier Zero, écrit par Mark Waid,
ouais,
si je ne me trompe pas,
c'est ça.
Et Starborn, c'est la série de Chris Robertson. Alors Chris Robertson, on l'a vu notamment récemment sur du Superman, puisqu'il a assuré la suite des épisodes de JMS.
Mais c'est aussi celui qui écrit
iZombie surtout. Voilà. iZombie, c'est son œuvre majeure.
Donc vous retrouverez Laura et Michael Red au LCF, hein, d'ailleurs.
Oui, et ils sont en chair et en os. Et ils pourront vous faire des jolis Deadman ou autre.
Zombies.
Oui, puis même du X-Force, enfin du X-Statics, on va dire, plutôt.
Ouais.
Voilà. Fermeture de parenthèse. Donc, Starborn, c'est quoi? Puisqu'on n'en a jamais parlé, je crois, auparavant.
Non, on n'avait pas parlé de la sortie du premier tome.
Ben alors du coup, c'est l'histoire d'un auteur de SF qui se retrouve, par la force des choses, embarqué dans ses propres créations, on va dire.
Puisque ses créations sont finalement pas tant des créations que ça.
Voilà. C'est peut-être pas si faux. Je sais pas comment le formuler.
C'est,
hein.
Bah, c'est finalement, c'est pas si loin de la réalité que ça. La voilà, réalité, c'est ça. La réalité rattrapée de la fiction finalement. Mais était-ce un jour de la fiction?
Voilà, c'est ça. Exactement. C'est un résumé bien le pitch. Et du coup, bah, là, il est complètement parti dans l'espace, hein, vers l'infini et au-delà. C'est totalement du space opéra, si on veut.
Ah bah oui.
Voilà, c'est vraiment un comique de, enfin une aventure de SF à la Star Wars. Enfin, il y a plein de références en fait, aussi bien du Star Wars que du cette parodie là de Star Wars, je sais plus comment ça s'appelle.
La folle aventure, la folle histoire de l'espace.
Ouais, ça m'a fait penser aussi un peu à ça à certains aspects.
Les Spaceballs.
Voilà, non, il y a des trucs assez drôles. En même temps, c'est quand même assez sérieux. Vraiment, ça prend forme, en fait. Ça prend les intrigues prennent vraiment, enfin, voilà, arrivent à maturité dans ce second volume. Chris Robertson a vraiment pris cette marque sur cette série. On pensait au début que peut-être certaines séries n'allaient pas durer. Hein. Honnêtement, je savais pas si tous les trois titres allaient faire long feu.
Moi, la lecture des premiers épisodes, comparativement, c'est vrai que c'était la série la moins intéressante.
À la lecture du premier épisode. Traveler
à la lecture du premier épisode. Et ouais. Puis finalement, sur la longueur, sur le premier arc, moi, j'avais plutôt bien aimé. Ouais.
Bah, disons que au début, c'était assez convenu. Et là, bah, petit à petit, voilà, les intrigues prennent forme et il y a des surprises. Il y a des surprises, voilà. Bon alors, par contre, on est complètement dans l'espace. Faut aimer effectivement tout ce qui est un petit peu SF, aventure interstellaire. Je sais pas comment le définir.
Mais moi, ce qui me gênait, c'était les dessins, particulièrement.
Et, oui, et voilà, justement, je vais y venir. Alors, les dessins de Carrie Randolph, puisque je ne l'ai pas encore nommé, c'est un petit peu du... Je sais pas, c'est un petit peu un espèce de mélange entre du Invincible, du Francis Manapul, du Humberto Ramos, enfin je sais pas comment le définir, voilà, c'est un truc très cartoony.
Oui, il y a une influence assez Ramos, ouais, c'est sûr.
Et en même temps.
Il y a un peu de manga aussi dedans, c'est ça qui me gêne.
Ouais.
Il y a des traits, disons, façon un peu manga. En tout cas, sur le premier arc, peut-être qu'il s'est amélioré sur le deuxième. Hein.
Ouais, moi ça me fait penser aussi, il y a un petit côté Invincible quand même, alors c'est peut-être le côté, ambiance SF. Aventure spatiale, mais bon, enfin c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que ça m'a moins choqué dans cet épisode que enfin dans ce volume que dans le premier.
D'accord.
Parce que peut-être que ça se prêtait plus effectivement à cette ambiance.
Ouais, et puis il y a l'habitude du style aussi. Hein. C'est vrai qu'il faut aussi toujours un peu de temps pour s'habituer à un nouveau style graphique.
Voilà. Mais enfin, toujours est-il que c'est drôle, mais sérieux en même temps, l'auteur vraiment est à l'aise dans son sujet et ça prend forme. Je donnais pas cher de cette série au premier volume, et alors là le deuxième volume décolle sans mauvais jeu de mots, très loin dans le ciel. Et donc voilà, c'est vraiment un titre à suivre, très bonne surprise chez Emmanuel Proust. Bon, la seule complainte peut-être, c'est que encore une fois le volume est peut-être un chouïa un peu mince pour 14,95€.
Mais bon, ça permet d'avoir ces séries-là en français.
C'est du hardcover en même temps. Et puis oui, puis bon, bah, voilà, c'est des séries un peu à part, hein, puisque c'est Boom Studio, si je dis pas de bêtises.
C'est Boom, ouais, c'est ça. Boom. Et c'est vrai que moi, enfin, rétrospectivement, après avoir lu les trois premiers arcs, j'ai pas attaqué les deuxièmes encore, hein, donc je suis un petit peu à la bourre. Mais finalement, la série la peut-être la moins passionnante, alors qu'elle avait un pitch qui me plaisait, celle qui me plaisait le plus, en tout cas au départ, c'est The Traveler. Je trouve qu'il s'est embourbé et qui pour moi, n'allait presque nulle part.
D'ailleurs, The Traveler n'est pas sorti ce mois-ci, je ne sais pas s'il sort, ou s'il est sorti peut-être avant, je
ne
sais pas.
Je ne sais pas, j'ai pas suivi.
On a ce mois-ci, on n'en a pas parlé, du coup, de Soldier Zero volume 2, qui est sorti. Ouais, également.
Bon, c'est du Mark Waid, donc voilà. C'est.
Il y a des chances que ce soit pas mal. Je me demande si le scénariste n'avait pas changé d'ailleurs après.
Ah, je ne sais pas.
Est-ce que c'était pas Nick Spencer? Non, je pense pas. Je ne sais pas, je pense que je dis une grosse bêtise. Bref. Toujours est-il que c'est dans les bacs. Donc voilà.
Lecture conseillée par Monsieur Nebeil.
Ouais, bah le démarrage était sympa.
Ok, on va passer à autre chose. On va retourner chez Bernini avec la sortie de Victorian Undead, qui est donc une série, enfin une mini-série publiée chez Wildstorm à l'époque où il existait encore. C'est écrit par Yann Edginton et au dessin on a Davide Fabri. Alors pour résumer simplement, Victorian Undead, c'est Sherlock Holmes contre les vents. Contre les zombies, j'allais dire les vampires. Force de parler d'American Vampire et de Lord Baltimore.
Alors, ça m'intrigue énormément. Je ne l'ai pas lu. Pour ainsi dire, je ne l'ai pas encore pris. J'hésitais et j'ai l'impression que c'était une version zombie de Sherlock Holmes. En fait, c'est pas ça.
Non, du tout. Alors, la cover est la cover est trompeuse, mais non, c'est pas du tout Sherlock Holmes en zombie. C'est Sherlock Holmes face aux zombies.
D'accord, ça change tout.
Alors, ça peut paraître étrange comme choix. Je vous avouerai que moi, c'est pareil. Je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est pas un moyen de faire un peu de fric en mélangeant une licence classique Sherlock Holmes avec un thème qui marche relativement bien en ce moment, les zombies.
Oui.
Bon, voilà, est-ce que ça va pas être un peu surfait?
Et est-ce que c'est pas un thème un peu moisi, justement?
Et pas du tout. C'est vraiment très sympa. Alors, on a le côté Sherlock Holmes assez classique, avec un gros appui sur ce qu'a pu écrire Arthur Conan Doyle. On est vraiment dans l'univers de Sherlock Holmes. Et donc, pour les gens qui aiment Sherlock Holmes, vous serez pas perdus du tout. C'est quand même relativement proche de ce qu'a pu être fait.
Il y a des références, quoi, en fait.
Il y a des références. Maintenant, si on les connaît pas, c'est pas grave.
Ouais. Mais enfin, tu penses que les connaisseurs, ils trouveront leur bonheur, quand même.
Ah oui, oui, je pense, oui. Puis on a ce thème, donc, du zombie. Donc, un thème vraiment très fantastique. Et c'est vrai que Sherlock Holmes flirte avec le fantastique sans en être vraiment à chaque fois. Là, on est vraiment dedans. Et l'histoire se tient. C'est vraiment, vraiment très agréable. Bah, grosso modo, je peux pas vraiment résumer plus en disant que c'est Sherlock Holmes face aux zombies, quoi. Il va y avoir une espèce de contagion qui va s'effectuer. On va avoir un Londres pris d'assaut par les zombies, un Londres du 19e siècle. Enfin, fin 19e. Et vraiment super bon. On retrouve le cast classique, hein, donc Watson et puis la servante dont j'ai oublié le nom, et puis d'autres personnages bien évidemment. Je vais pas tout révéler histoire d'éviter les spoilers. L'histoire se tient de bout en bout. C'est vraiment très bon.
Enfin, l'histoire se tient de bout en bout. Excuse-moi, mais il y a des morceaux de bras qui tombent.
Ouais, il y a pas que des morceaux de bras.
Sur
qui tombent, d'ailleurs.
Il
y a des il y a des scènes de rentre dedans, mais c'est pas si violent que ça, hein, loin de là, malgré que ce soit du zombie. C'est franchement lisible.
Des scènes rentre dedans ou des scènes de rentre dedans?
Il n'y a pas de scène de sexe. Aucune.
D'accord. Parce que ça change tout.
Il n'y a pas de, enfin, voilà. Moi, je pense que voilà, ça peut être lisible par tout le monde. Maintenant, le thème de Sherlock Holmes, déjà, n'intéressera pas forcément tout le monde.
Ah, quoi que. C'est des paysans en même temps.
Oui, c'est des paysans. Au niveau du look, le Sherlock Holmes, c'est il y a deux influences graphiques. Alors, il est consistant, hein, mais il y a vraiment un mélange un petit peu entre le Sherlock Holmes incarné par Basil Rathbone et le Sherlock Holmes incarné par Peter Cushing. Hein. Dans les visages, on reconnaît sur certaines planches, on a plutôt tendance à voir Rathbone, dans d'autres pages, on a plutôt tendance à voir Cushing. Donc voilà, au niveau du dessin, le mec s'est fait plaisir, quoi. Il a vraiment gardé cette influence classique.
D'accord.
Le petit défaut, peut-être, de cette mini, c'est que ça manque un peu d'humour. Je pense que ça aurait peut-être été...
Oui, parce que ça avait l'air assez fun, comme ça.
Ben non, pas tant que ça, c'est quand même assez assez dramatique. Et enfin, dramatique, en tout cas, c'est une bonne histoire d'action, et voilà, ça bouge, mais peut-être qu'une petite pointe d'humour aurait rendu le truc excellent, excellent, excellent. Là, c'est bon, mais voilà, dommage qu'il n'y ait pas ce petit côté déjanté, ce petit côté fun. À la rigueur, un petit humour à l'anglaise, un humour tout en finesse, aurait peut-être été... encore mieux.
Enfin, l'anglaise est tout en finesse.
Ah bah, l'humour anglais est quand même un humour assez fin.
Oh, ça dépend.
Oh, si, quand même, dans l'ensemble. C'est de l'humour limite absurde, mais toujours très... pas cucu-pout-prout, quoi.
Oh bah, Benny Hill et compagnie.
Oui, mais enfin, Benny Hill n'est pas l'humour anglais en général.
Oui, oui, c'est vrai. Et puis bon, voilà. C'est assez fin dans le sens où, effectivement, les femmes étaient habillées assez finement.
Finement, ouais, c'est ça. Donc voilà, une bonne petite découverte, une bonne petite surprise. J'ai pas fait de recherche, mais je crois qu'il y a eu une suite. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ou alors si elle n'est pas encore sortie, elle était en projet. Maintenant, vu qu'il n'y a plus le label Wildstorm, je sais pas trop ce qu'il en est, mais normalement, il devait y avoir une suite à cette série, une autre mini-série donc.
On va repartir du coup totalement chez Panini et totalement sur du mainstream avec les X-Men.
Ouais.
Donc c'est le Astonishing X-Men Xénogenèse. Alors à la base c'était le titre Astonishing X-Men qui s'est transformé en une suite de mini-séries aux États-Unis. Et donc on a cette première mini-série toujours scénarisée par Warren Ellis mais avec Kerr Andrews au dessin et qui nous sort en 100% Marvel en fait, format 100%. Ce qui est pas plus mal puisque au fait aucun rapport avec la continuité actuelle des X-Men. En fait on s'en fout quoi, on peut ne pas avoir lu X-Men depuis Depuis des années, on comprend très bien ce qui se passe.
Bah, de toute façon, c'était le but non avoué d'Astonishing X-Men, hein, d'être totalement dehors de la continuité.
Ouais. Mais même, en même temps, si on n'a pas lu les précédents épisodes d'Astonishing X-Men, c'est pas problématique non plus. Il y a juste une petite référence à l'histoire de la Ghost Box, là. Mais bon, enfin, c'est à la rigueur, si on n'a pas lu tout ça, c'est pas grave, on comprend aisément de quoi il retourne. Donc,
en fait, je préférerais ne pas l'avoir lu, en fait, mais bon.
Ouais. Donc, en fait, l'intrigue, c'est que il y a des bébés qui naissent en Afrique avec des super-pouvoirs et qui pourraient être des bébés mutants. Alors, chose extraordinaire, puisque, rappelle-toi, les pouvoirs mutants, normalement, se déclenchent à la puberté. Donc là, c'est quand même bizarre. Hank McCoy est intrigué. Du coup, il part avec toute une petite équipe, donc quand même des gros noms des X-Men, hein, Wolverine, Emma Frost, Tornade, Cyclope. Voilà.
C'est là qu'on voit que c'est donc pas dans la continuité, puisque Hank et Cyclope travaillent côte à côte.
Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est totalement en dehors de la continuité. À la rigueur, on pourrait le placer il y a plusieurs mois, si on veut, quoi, à l'époque où il y a eu les premiers épisodes de Astonishing X-Men. Mais bon, enfin, c'est pas forcément utile. De toute façon, c'est vraiment une histoire auto-contenu. Bon, ils affrontent un gros méchant pas beau. En fait, c'est assez simple à comprendre. Dans la narration, c'est pas compliqué, biscornu et torturé comme les arcs précédents de Warren Ellis ont pu l'être sur Asto. Surtout le premier, hein, justement, la fameuse histoire de la Ghost Box où tu savais pas vraiment où il voulait en venir. Et d'ailleurs, lui non plus, je pense. Et y a aussi tout un, évidemment, toute une espèce de critique sur l'Afrique actuelle, hein, les guerres de, comment dire, les guerres ethniques qui sévissent en Afrique, les massacres, etc. Et d'un autre côté, on est vraiment dans ce qui faisait le charme des X-Men à la grande époque, c'est-à-dire les X-Men qui voyagent à travers le monde, qui arrivent d'ailleurs là dans une nation qui n'existe pas. Hein, je sais plus comment, je n'ai pas noté le nom du pays en question, mais c'est un pays imaginaire. Imaginez. Pardon ?
Le Wakanda.
Non, mais c'est pas le Wakanda, mais c'est un truc du même acabit. Hein. Voilà, c'est un truc imaginaire, mais pourtant très proche de la réalité actuelle. Avec ce qui se passe au Rwanda, etc. On est vraiment dans tout ça, mais ça tombe pas non plus dans le dans la critique géopolitique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un truc. Ça peut sembler assez barbant comme ça. Moi, en général, ça me saoule quand c'est un peu trop proche du réel, parce que j'aime bien voyager, changer un peu d'air et penser à autre chose quand je lis des comics. Mais là, voilà, Warren Ellis arrive à faire la part des choses et on reste quand même dans le domaine du fantastique, quoi. C'est pas uniquement qu'un truc les X-Men qui vont régler les problèmes en Afrique. Voilà.
Ok.
Donc, grosso modo, c'est pas si mal. Bon, il y a le côté effectivement totalement dispensable de la chose qui fait que on peut passer à côté sans que ce soit problématique. Reste que Karen Drews au dessin a changé son style considérablement. Alors autant il fait des personnages féminins dont Emma Frost assez bizarrement. Elle est bizarrement foutue, elle a l'air toute petite par exemple, comparée aux mecs qui sont ultra bodybuildés. Bon, c'est un parti pris. En même temps, je trouve pas ça dégueulasse. Hein. Il y a vraiment des styles comme ça avec lesquels j'ai un peu de mal, mais là, non, ça passe plutôt bien. Voilà, bon, épisode sympathique, enfin arc sympathique des X-Men, totalement hors continuité, mais qui a un petit air de ce qu'étaient les X-Men d'antan.
D'accord.
Donc c'est pas plus mal. Reste que voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se dit que y aura très peu
ça
de retombées.
Rien.
Voilà, oui. Il n'y aura pas de suite à ça, sauf si Warren Ellis décide un jour de faire une espèce de suite à cette saga, mais il y a peu de chance.
Mais en tout cas, tu m'as quand même donné envie d'aller y jeter un œil, puisque je n'étais pas forcément super emballé, mais là... Ouais,
c'est meilleur que ce qu'il avait pu faire auparavant, okay. Je trouve.
Bah déjà, tu vois, j'irai au moins voir, histoire de voir à quoi m'attendre. Parce que là, ouais, tu m'as convaincu d'aller...
Histoire de voir à quoi t'attendre.
Oui.
Très bien.
Oui, ça veut rien dire, je sais. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on enregistre, on commence à dérailler.
Je pense que le déraillement, c'était à peu près à la troisième minute déjà.
De les 30 premières secondes. Très bien. Et c'est donc la fin de nos reviews. Et avant de terminer, avant de se quitter, nos amis
bonus
Jean...
track, comme tu dis.
Ouais, un petit bonus track, oui, voilà. Nos amis Jean-Lo et Nono étaient au Paris Manga Show et ont interviewé plusieurs personnes. Et donc, on a décidé de vous proposer l'interview de Doug Braithwaite. Alors, ça va être un petit peu bizarre comme système pour les gens qui sont pas habitués, mais ce sont des choses qui se font, qui se faisaient en tout cas dans d'autres émissions. Puisque la majorité des gens ne parlent pas forcément couramment anglais, on va faire un petit peu le résumé de ce qui s'est dit dans l'interview, pour que tout le monde puisse comprendre. Et à la fin de l'émission, donc d'ici une dizaine de minutes maximum, vous pourrez écouter l'interview en version originale directement. Il y aura pas de sous-titres, hein, c'est de l'audio, logique. Il y aura pas de doublage non plus par-dessus. Donc pour les gens qui veulent entendre l'interview en entier, ça va être possible juste après. Et puis bah pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais ou qui n'ont pas forcément envie d'écouter une interview en anglais, bah, vous allez avoir un petit résumé tout de suite. Donc Doug Braithwaite nous parle un petit peu de toute sa carrière. Il a commencé à 17 ans chez Marvel UK, pour lesquels il a bossé pendant un an avant d'être recruté par DC. Et c'était il y a de ça 25 ans. Monsieur a quand même une très longue carrière.
Ah oui, ça fait un bail, ouais.
Ouais. Actuellement, il vient de finir un run sur Journey into Mystery, et il a décidé de faire un petit break, parce que ça fait 10 ans qu'il travaille sans discontinuer, et donc il a envie de se reposer un petit peu, de se remettre un petit peu d'aplomb, et avant de continuer. Il a quelques projets en cours, en tout cas à l'étude, et il a pas trop voulu en parler parce que pour le moment c'est un peu secret, il n'est pas encore certain que tous ses projets aboutiront, donc dans le doute il préfère pas en parler, mais voilà, il va faire un petit break de quelques mois et il va repartir. Il nous avoue aussi que Universe X et Paradise X l'ont fait rester dans les comics, puisqu'il était à un moment de sa carrière où des amis à lui qui travaillaient beaucoup pour le cinéma allaient le faire rentrer dans le cinéma, et lui commençait à en avoir un petit peu assez des comics, et finalement cette expérience là c'est ce qui l'a fait rester dans le milieu.
Ah, carrément, ouais, d'accord.
Voilà.
Ça fait partie de la trilogie de Paradise, oui. X et
oui, et puis Earth X, le premier.
Earth X, mais il y en a pas un troisième?
Bah Earth X, Universe X, Paradise X.
Ah voilà, c'est ça, ok.
Voilà. Ou peut-être Paradise X avant Universe X, je ne sais plus. Mais en tout cas c'était Alex Ross,
ouais,
au scénario, et Jim Kruger.
D'accord.
Son partenaire, de toute façon. Il continue de lire des comics, hein, il en achète pas énormément, parce que, bah, bien sûr, il n'a pas énormément de temps, mais, voilà, il lit les comics principalement pour les artistes qui y sont, et pour aussi voir un petit peu leur style, voir la façon de raconter, et un petit peu apprendre aussi, toujours, hein, des autres. Pour lui, un bon comic, c'est
si,
pas
si je peux me permettre, j'ai l'impression que dans les comics, on a quand même une diversité, au fait, des genres et des styles, qui est assez incroyable et qu'on retrouve pas forcément dans la BD européenne, où tout le monde dessine à peu près d'une certaine manière qu'on retrouve dans d'autres bandes dessinées. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, mais il y a moins de diversité, oui, effectivement.
Oui, ouais,
il y a plus un certain conformisme. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, mais.
Ouais, ouais, pareil pour les mangas, je trouve qu'il y a quand même. C'est pas que tous ressemblent, il y a quand même des styles différents, mais pas au point des comics.
Bah, c'est vrai qu'aussi la production de comics est aussi énorme.
Mmh,
donc proportionnellement parlant, c'est logique. Mais c'est vrai que oui, on peut trouver, en tout cas dans les séries qui se vendent le mieux, des styles radicalement.
Enfin, les mangas, je crois savoir qu'il y en a aussi énormément finalement.
Oui, c'est vrai aussi. Mais je sais pas, comparativement, je sais pas combien sortent le plus par mois, en fait. Si vous savez,
je pense que le manga, est au-dessus des comics en termes de production.
Ah, ouais,
enfin
peut-être.
Bon, on va savoir.
Donc oui, je vais reprendre sur ce que disait un petit peu Doug Braithwaite dans son interview. Pour lui, un bon comic, c'est pas forcément toujours une bonne histoire. Pour lui, un bon comic, c'est une histoire bien racontée. Et là, la nuance, elle est là. C'est-à-dire que le dessin et le storytelling font pour lui que ça va être un bon comic ou un plus mauvais comic, et que même si c'est avec un personnage qui est plutôt pas bon, si l'histoire est bien mise en image, si elle est bien racontée, en tout cas visuellement parlant, pour lui ce sera un bon comic. Voilà. Et Jean-Loup lui a posé une question assez difficile sur la fin, s'il avait un travail à sauver dans sa carrière, lequel ce serait. Il a pas mal hésité. Lui, il sauverait Justice, la série qu'il avait faite chez DC.
D'accord.
Et Punisher Kills the Marvel Universe.
Ah oui, d'accord, oui, le fameux Punisher Kills the Marvel Universe dont on entend souvent parler, au fait.
Oui. Oui. Voilà, donc c'est un bref résumé de ce qu'a pu nous dire Doug Braithwaite dans son interview. Bon, pour ceux qui veulent l'écouter, elle va venir juste après, d'ici quelques minutes. Nous, on va vous laisser, hein, pour ce mois-ci. On a fait une émission encore assez longue.
Ouais, justement.
Tout. On voulait faire une émission plus courte, mais finalement, on se laisse aller et on lit plein de choses Et voilà, quoi.
Et on dit plein de choses. Et d'ailleurs, je terminerai en disant, parce que je l'ai jamais cité encore, je pense, dans l'émission, le Comic Box de ce mois-ci. Je lis Comic Box et toujours des articles.
Je crois qu'on le lit tous, en fait. Hein, quand oui. On est un bon fan de comics, on lit Comic Box en général.
Ouais, ben toujours de très bons articles, notamment de Xavier Fournier, des articles de fond. Alors là, cette fois-ci, il nous parle de Fear Itself. Mmh. Il parlait aussi du changement de comportement de Cyclope. Enfin, il nous montrait d'ailleurs que c'était pas vraiment, il y avait pas vraiment de changement dans son comportement, justement.
Oui. Mais toujours très intéressant, quoi.
Ouais. Des études qui font parfois plusieurs pages, 4-5 pages parfois. Donc c'est très complet, très intéressant. Et puis des interviews. J'ai lu notamment celle de J.M. DeMatteis pour le moment.
Oui.
Toi, je crois que tu avais lu celle de John Ostrander.
Ouais, moi j'ai lu celle de John Ostrander pour le moment. J'ai pas eu le temps de finir le magazine encore. Il y a un très très bon article sur Bill Sienkiewicz.
Ah oui, oui, voilà.
Nouvelle rubrique. Article où son style est bien décortiqué et c'est super bon.
D'accord. Donc pourvu que cette rubrique revienne d'ailleurs.
Ah oui, j'espère qu'ils feront d'autres artistes comme ça avec en essayant de décortiquer le style, parce que franchement c'était très bien écrit. Alors moi je suis pas du tout versé dans la technique des dessins. Je vous avouerai qu'il y a certains passages qui m'ont paru un peu obscurs. Sans jeu de mots avec le style de Sienkiewicz, hein, bien sûr. Mais j'ai pas tout compris à certains moments, mais en tout cas, ça m'a donné un autre éclairage sur pourquoi ce style-là et la façon dont il mettait les choses en avant dans ses dessins.
En perspective, ouais.
Très intéressant, en tout cas.
Ok. Donc, toujours pour 6 euros et quelques, j'ai plus le prix en tête, mais...
6,90, je crois.
6,90, voilà, bon, une bonne lecture, beaucoup de choses. Et bah ça fait toujours plaisir, tous les deux mois, donc à retrouver en kiosque. Mmh. Et puis c'est tout.
Ouais, mais non, là, comme on le disait, hein, tout fan de comics qui se respecte se doit de lire Comic Box quand même, parce que c'est vraiment pour aller un petit peu au-delà de la simple lecture et y réfléchir un petit peu plus. Et voilà, c'est toujours bien écrit, toujours bien fourni. Il y a vraiment de tout, quoi.
Et je
ça traite non je, justement j'essayais de j'essayais de l'éviter, mais voilà. Voilà, il y a autant du DC qu'il y a du Marvel. Il y a une petite BD aussi. C'est toujours sympa, des numéros inédits.
Ouais, bon, enfin, de toute façon, il y a de la lecture, il y a du comics, quoi, tout simplement.
Ouais.
Ouais. Et ben voilà. Et puis bon, pour des trucs encore plus pointus, il y a des fanzines, mais c'est vrai que c'est le seul magazine, on va dire officiel, disponible en kiosque traitant des comics à ce jour.
Et ben, je pense qu'il faut continuer de le soutenir parce que il le mérite, hein, tout simplement.
Ouais, non, mais c'est toujours sympathique, et ça dure depuis quand même 98.
Ouais. Alors, il y a eu un petit break, mais.
C'est vrai.
Et voilà. C'est le numéro 71, je crois.
73, peut-être?
73, oh, bah, je sais plus.
Je sais plus, mais on doit pas être loin. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas tout, mais.
Allez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve, pour ceux qui viendront au LCF, cette semaine. C'est à la fin de la semaine. Donc, ceux qui n'ont pas encore réservé leur place, bonne chance un petit peu. Vous aurez peut-être plus de chance pour le dimanche. Et bien, pour tous ceux qui viendront, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur nos stands. Et puis venir tailler le bout de gras, comme on dit.
Ouais.
Voilà. Comme d'habitude, on se retrouve bien sûr aussi dans les commentaires sur le site, sur Facebook, sur Twitter. Vous retrouvez les derniers podcasts sur iTunes. Et puis voilà. Et puis oui, les mails aussi. L'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Et je vous rappelle aussi qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour le concours de jingle. Donc n'hésitez pas à vous envoyer. On en a déjà reçu, qui sont très sympas. Donc,
mais faites comme moi, des jingles à la bouche, c'est plus, c'est moins cher, ça demande moins de temps et c'est plus fun.
Voilà. Eh bien, sur ce, au mois prochain. Et on vous laisse tout de suite avec l'interview de Doug Braithwaite. À bientôt.
Ciao à tous.
Hello, Doug.
Hello.
Welcome on Comic City. Is it the first time you went in France?
No, I was in Lille 2 years ago.
Okay.
And before then, I used to come on school trips to Paris, but I can't remember too much.
Okay. You were... A lot for DC, for Marvel.
How did you start?
How did I start my career? Well, I started with Marvel UK when I was 17.
17?
Yes. And I worked there for a year, and then I met some DC editors. And they came over to a show in the UK and saw my work, and not too long after that I was offered my first DC work. And so that's 25 years ago. So I've been working for Marvel and DC and loads of other companies since then.
And now you work for Marvel exclusively or not?
I have been exclusive Marvel for the last 3 years, but I just finished the Journey into Mystery, and I felt I needed to take a break because I've been working solidly for 10 years straight, and I just needed a bit of time to recharge my batteries, and then I will assess things in a few months' time.
Okay, do you have projects about the future?
I have been talking to various people who are interested in offering me loads of projects.
Okay.
But
you can't tell.
I can't tell, and I'm still making my mind up what I want to do next.
So you do a lot of things. You can draw, you can ink, you can color.
Mm-hmm.
You also do covers. What's your favorite?
I love drawing interiors. I love telling stories. That's the main reason I go into comics. So I could, that's the most important thing to me. The combination of visuals and storytelling, trying to create emotion within the comic. But at the same time, I love illustration, and I love composing covers.
Okay.
I don't do as much of them as I would like, because drawing the comics inside takes up a lot of time. So it's difficult trying to fit everything in the same month. But I like interiors. I love drawing the interiors.
Okay. And in drawings or covers, what are your favorite characters to draw?
If you asked me this question when I started, I would reel off loads of characters I love. But I've been very fortunate to have drawn everybody in my career. I have no real favorites at the moment. I've enjoyed my work on Wolverine. I've enjoyed doing the covers on Wolverine. Thor is a character I love. I would like to do more of those covers. So I'm Batman. Everybody loves drawing Batman. Lots of black. So maybe some more of those.
When we see your draws, your style, with the other artists contributing, it seems like there is no inking.
Yes.
Can you speak about this?
Well, you've just shown me Secret Invasion Thor. That was my first job I did for Marvel when I went exclusive. And I wanted to try something different. I wanted to try and make the page look more like an illustration. And I felt the best way of approaching that would be to convert the pencils, just scan the pencils, adjust the pencil slightly, and try and color on top of the pencils. But try to do it so it looks like watercolor. A bit like Arthur Rackham or Edmund Dulac. These are all the illustrators. It's very difficult for the colors to do the work I wanted them to do, because it would have been very time consuming. But after I did that, I went back to working with a regular inker, and only until the last project I did for Marvel, the Journey into Mystery, did I try doing that again, because I found a colorist that I felt would understand the process I wanted, and he did a very, very good job. Ulysses Ariello, very good.
How do you work with the writer, for example, via Skype, mail, phone?
Phone. I'm very old-fashioned. I still live in the Stone Age. If I have any questions with the writer, I pick up the phone. Or we email, but the emails are very quick, and I just try and... If I send him an email, I usually say, can we speak? And they go, yes. I find I could put it across more clearly when we speak on the phone. So I'm not very good with email either. Very slow. One finger.
just a word about your past. You worked on Paradise X, Universe X. Was it a turning point for you or something important for you?
I would say yes for my career, because at that time I was making a decision whether to step out of comics. I had a lot of friends who worked in the film business, and they wanted me to work on films. And I was going to make the decision to go and work in film. Then I got a phone call from Alex Ross, asked me if I could would like to work with him. And Alex is obviously a great artist, and it was an opportunity to work with a great creator. So at that time I wanted to stay in comics, but I felt I was getting more attention from the film business. But when Alex rang up, I thought, okay, we could do something. The project sounded interesting. It sounded very intricate, lots of work, but we would all collaborate together, and that's what we did. So
you, Alex Ross, and you, it's a long story. Maybe for the future, another project?
No. I think that was it. It was great when it happened then, but you have to move on, do your own thing.
Okay. Are you a comic reader?
I stopped reading comics a long time ago. I think it's, you ask any professional who's at a certain level in his business, you tend to just study comics for techniques. You see what other artists are doing. I just buy a comic now if there's an artist that I'm interested in. I don't tend to read the comics that much. I don't find many of them that interesting, to be honest. I'm always about the illustration, the art, the seeing how people are handling story, how people are handling composition. That's the only reason I buy comics. I don't buy many now, but when I do, it's always for those reasons.
For example, new comics.
Okay.
DC New Universe now.
I've picked up. I was in the comic shop before I came here, and I picked up 5 DC comics, Justice League, Swamp Thing, Batgirl, or Batwoman.
Batwoman?
By G.H. Williams.
Yes, love that.
Yeah.
Okay. He's always experimenting. He always tries to do different things. He's a very good artist, a very good storyteller. They're the kind of people I'm interested in looking at. And his Batwoman was beautiful, so
yeah.
I love the way it combines inking and then goes to watercolor, goes to black and white. It's interesting. Yeah, this is what I like to see.
Okay.
You choose for the artist or for the characters and for their stories?
I choose it for the artist, the creative team on the comic. That's what interests me. I'm not too worried about the characters, because if you have a strong writer and a strong artist, it doesn't matter what the character is, the comic book still stands out as being good.
Okay.
So.
And you wrote some few stories? You have written some few stories?
No, I have not written any stories yet. I'm not really a writer. I tell story visually. I tell stories. I communicate by drawing. That's my way. I could tell a story without word balloons on the page, but I would need somebody to put the words there for me. I could do it myself, but I'd be very, very slow.
And let's imagine you have only one work to save on your career. What will it be?
Good question.
Ooh. Hard question.
Very hard question. There's two. Obviously, Justice.
Justice.
That was a very important project for me and Alex. And that was hard work. 2 years of our lives. 2.5 years of solid work. Very proud of the product end result. I think everybody is very proud of that. Punisher Kills the Marvel Universe. That was an interesting project again. It was the first of its type before the Max comics. The first time you see a superhero kill all the other superheroes like that. Garth Ennis. So I would say those two projects. I probably should name two or three others, but I can't think of them now. I've done so much.
Okay. Well, thank you very much.
My pleasure.
Thank you. Hope to see you soon in France.
Thank you for waiting.
Yeah. No problem.